Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 23 février 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 24, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Victoria, bonsoir. Allez-vous bien?
Bah, écoutez, ça va plutôt mieux. Je n'ai plus cette voix. J'ai eu un choc quand vous avez dit la semaine dernière que j'avais une voix de rogom. Parce que j'ai cru me rappeler que le rogom, dans le vieil argot d'autrefois, c'était l'eau de vie. J'ai dit, ça y est, les auditeurs vont penser que je me suis laissé aller sur la bouteille.
Tout le monde sait que vous buvez, ma petite Victoria. D'ailleurs, il n'y a qu'à vous regarder, on voit bien.
Rogom, Mélécas, tout ça, ça marche ensemble.
Vous n'avez pas vu? Non, c'était ma belle-mère qui disait une voix de rogom.
Oui, mais c'est tout à fait.
Ah non, elle ne disait pas ça. Elle disait non.
C'est un vrai mot, quoi.
On est en train de me parler. Elle disait qu'un rogom, c'était une espèce de bouillie qu'on mettait dans le...
Non, c'est l'eau de vie. C'est le nom de l'eau de vie.
En tout cas, en patois parisien, c'était une bouillie.
Ah, peut-être qu'on la faisait avec l'eau de vie, justement, voilà, pour que ça cotérisse.
Conversation passionnante, s'il en fut.
Sur la médecine.
Ah ben, écoutez, on va démarrer tout de suite. J'allais annoncer la nouvelle de la présence de Bruno Gollnisch au téléphone, et il est en ligne. Donc, nous allons l'écouter et faire avec lui le point de la situation. Puis après, je continuerai la présentation de cette émission. Bruno, bonsoir.
Bonsoir Serge, est-ce que vous m'entendez bien?
Je vous entends très bien. C'est pratiquement, on jurerait que vous êtes au téléphone.
Là, je suis à Strasbourg.
Ah, joli pays.
C'est une session au Parlement.
Alors... Je vous ai appelé parce que j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit point de la situation générale sur le front des troupes. D'une part, la façon dont le Front National entre dans la campagne pour le non au référendum sur l'Europe, et puis d'autre part sur la façon dont vous réagissez vous aux attaques qui continuent à se produire contre vous, et notamment à l'interdiction qui vous est faite d'exercer votre activité de professeur qu'en d'autres temps on appelait des Berufsverboten, des interdictions d'exercer.
C'est ça.
Alors, en ce qui concerne la campagne pour le référendum, je dois vous dire que moi, je trouve que peut-être que je suis mal informé, mais je trouve que le Front National est un peu en deçà de la main.
Je ne crois pas, très sincèrement. D'ailleurs, là, vous me surprenez au milieu d'une réunion de nos amis du Bas-Rhin, et je présiderai tout à l'heure un repas de sans couvert. Je viens de faire une conférence de presse. En réalité, je crois que nous sommes totalement occultés, et je le dis sans délire de persécution, au plan national. Mais nous avons décidé de contourner cet obstacle en lançant, il y a déjà plusieurs semaines, une opération de tournée dans nos fédérations départementales. Et je pourrais vous montrer, comme l'ont dit, le pressbook, c'est-à-dire la copie de tous les articles de la presse régionale qui sont parus sur la venue en province de nos équipes. Nous envoyons des équipes de 2 ou 3 membres de notre bureau politique, avec un député européen ou ancien député généralement, et puis des experts, des gens qui nous conseillent dans notre activité parlementaire et qui sont toujours militants. Nous avons déjà parcouru à peu près 70 des 100 départements français. Et nous allons faire les 100 départements français, sans préjudice, naturellement, d'autres opérations de mobilisation. Alors, à chaque fois, nous avons une réunion de travail avec les bureaux des sections départementales, un point de presse, radio, télévision, quand elles veulent bien se déplacer, avec la presse locale, et une réunion publique ou un dîner-débat. Et évidemment, nous n'allons pas nous en tenir là. Nous avons des argumentaires, nous avons des affiches, nous avons un matériel de propagande simple, parce que on ne sait pas de quels moyens nous disposerons. L'argent public allant massivement, pour le moment, en faveur exclusivement de la propagande pour la ratification de la Constitution, et aucun crédit, aucun moyen n'étant prévu pour la campagne. Nous ne savons même pas, par exemple, si nous pourrons au moins envoyer dans l'enveloppe qui sera adressée aux électeurs ce qu'on appelle une profession de foi, une analyse de notre formation du Front National sur les raisons qu'il y a de voter non. Il semble qu'il n'y ait absolument rien de prévu, et c'est tout à fait anormal et scandaleux. Mais malgré ça, encore une fois, j'y insiste, je crois que nous sommes assez actifs sur le terrain, plus qu'on ne le croit.
Est-ce que vous, justement, à propos de l'utilisation plus qu'abusive des moyens d'information de l'État, au service de la cause du oui, est-ce que vous envisagez une action en justice, par exemple, ou une action dans le Conseil d'État, pour obtenir question soit réglée?
Oui, nous avons demandé audience au président du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Commission des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Nous verrons ce que l'on en peut attendre. Je dois dire que la réponse qui nous a été faite par mon ancien collègue, Monsieur Mazot, président du Conseil constitutionnel, est assez surréaliste, dans la mesure où il veut bien nous recevoir, mais après que le décret organisant la campagne soit sorti, ce qui évidemment n'a aucun intérêt, parce que ce que nous souhaitons, nous, c'est lui donner notre avis sur ce que serait une réglementation équitable avant que ne sorte le décret. Mais on est toujours dans un système de lettres de cachet, puisque on ne sait même pas de façon précise quelle sera la date exacte du référendum.
Mais il semble qu'on s'oriente vers le 5 juin, voire avant.
Oui, voire avant, on avait même prêté à Jacques Chirac l'intention de le fixer au 8 mai, de façon à bénéficier de la symbolique de l'arrêt de la Deuxième Guerre mondiale.
Colossale finesse.
Colossale finesse, et surtout à éviter la montée des noms. Parce que je crois quand même qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion, et que nos compatriotes se rendent compte que à chaque fois, on leur dit il faut plus d'Europe, il faut plus d'Europe, il faut plus d'Europe, et à chaque fois qu'il y a plus d'Europe, il y a plus de problèmes, il y a plus de difficultés économiques, plus de désindustrialisation, plus de ruines de nos entreprises et de notre agriculture, et il y a quand même des gens qui sont moins aveugles que d'autres et qui se disent que ça commence peut-être à bien faire.
Est-ce que vous sentez que ça, en dehors bien sûr des militants qui sont acquis à la cause du non, est-ce que vous avez l'impression que ça mord un petit peu sur la masse amorphe de nos concitoyens?
Oui, quand même. Je pense qu'ils commencent à être réfractaires à la propagande qu'on leur resserre à chaque fois sur l'avion Airbus, sur la fusée Ariane, qui sont de belles réalisations mais qui ne doivent rigoureusement rien au système de Bruxelles, mais qu'on met à chaque fois en avant à des fins de propagande, ou alors aussi à cette espèce de chantage odieux qui consiste à leur dire « mais si vous votez pas pour plus d'Europe, alors vous êtes pour le retour de la guerre de 14 et de la guerre de 40 ». Ça, je crois que les gens commencent à en avoir assez. En revanche, pour être très franc, j'ai une crainte, c'est qu'ils se réfugient, dans l'abstention, et en croyant qu'ils antiquinent le système. Or ça, c'est absurde, parce que les tenants du système n'ont absolument pas peur de l'abstention des mécontents. Je serais tenté de dire au contraire. Les tenants du système souhaitent que les mécontents s'abstiennent. Ce qu'ils craignent, c'est que les mécontents votent.
Et comment est-ce qu'il y a un moyen individuel pour quelqu'un qui n'appartient pas forcément à un mouvement politique ou à une association ou à un groupe quelconque? Est-ce qu'il a un moyen, le citoyen lambda, d'agir contre ce projet de constitution, en plus de son vote normal, je dirais.
Pour être très franc, pas tellement. C'est la raison pour laquelle moi-même je suis engagé dans une formation politique, le Front National. C'est parce qu'évidemment, tout seul, mener ces batailles-là, c'est très difficile. Ça n'est déjà pas simple quand on se met à plusieurs. Mais enfin, on est quand même assuré d'un tout petit peu plus d'efficacité, c'est sûr.
Vous n'avez pas l'impression, c'est peut-être un peu parano ce que je vais dire, mais que le raffut qui est entretenu autour de ce qu'on appelle l'affaire Gollnisch maintenant participe un petit peu de cette tentative de discréditer le mouvement national, enfin le Front National, dans son rôle normal de contradicteur?
Ah, c'est pas une impression, c'est une certitude. Parce que j'ai des informations assez précises, il est évident qu'il y a une concertation. Il y a des attitudes, il y a des journalistiques dans un certain nombre de médias, il y a des mots d'ordre qui passent, ça c'est clair. Et je vous prie de croire que je ne suis pas un paranoïaque et que je n'ai pas l'obsession du complot. Mais je crois que ça n'est pas du tout un hasard. Je pense que également les attaques contre Jean-Marie Le Pen et le fait qu'à chaque fois d'ailleurs ça progresse en haine et en démesure. C'est-à-dire que des gens comme Strauss-Kahn, n'est-ce pas, qui devraient se voiler la face, qui devraient disparaître, des gens qui prélevaient des honoraires considérables sur les mutuelles destinées aux étudiants malades, qui osent nous donner des leçons de morale, qui osent réclamer pour les dirigeants de la droite nationale l'inéligibilité à vie. Quand on sait ce qu'a été la corruption du Parti Socialiste.
Oui, je dois dire que...
réclamer même qu'il revienne le thème trotskiste de l'interdiction du Front National revient. Je crois que ça traduit à la fois une crainte du système et aussi, à l'évidence, d'une volonté d'essayer d'en finir avec le Front National. Mais nous avons l'habitude, d'ailleurs, de ces offensives. Elles sont régulières, elles sont périodiques, elles ne nous atteignent, bien sûr, mais nous efforçons d'y résister.
Non, dans le cas de Strauss-Kahn, il y a quand même un aspect qui est intéressant, c'est l'infernal toupet du personnage. J'emploie le mot toupet je pourrais employer un autre mot, qui l'autre jour, par exemple, face à Guémard, donnait à M. Guémard des leçons d'honnêteté à propos de cette histoire d'appartement. Et c'était complètement surréaliste, enfin, de voir ce personnage qui est totalement discrédité, même si la justice n'a pas osé le condamner, qui est totalement discrédité aux yeux des gens qui savent lire et écrire et qui comprennent bien ce qui s'est passé dans l'histoire de l'AMNEF. De l'entendre donner des leçons de morale à Guémard, c'était renversant, littéralement renversant.
Oui, absolument.
Et on se disait, mais jusqu'où il va oser aller?
Mais plus c'est gros, plus ça passe.
Oui. Oui, c'est extraordinaire. Quelle est votre situation, vous, en ce moment, vous, de Goldich? Parce que on a appris que Fillot, donc vous avez interdit l'accès de l'université. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses?
Oui, c'est la troisième suspension dont je fais l'objet à chaque fois sur la base d'un texte différent et au moment où la précédente prend fin. C'est évidemment le signe très sûr d'une illégalité manifeste. Comme la première ne durait qu'un mois, je ne l'ai pas attaqué parce que je n'aurais pas eu gain de cause dans un laps de temps aussi court. J'ai attaqué la deuxième, fait inouï, fait exceptionnel, la plus haute juridiction administrative de notre pays, statuant dans un laps de temps court. Alors que souvent une procédure au Conseil d'État met plusieurs années. Eh bien, cette juridiction, le Conseil d'État a ordonné la reprise de mes cours. Le lendemain de la reprise de mes cours, j'étais interdit, j'étais suspendu pour une durée maximale d'un an par Monsieur Fillon. J'attaque évidemment cette mesure devant le Conseil d'État de nouveau. Ceci étant, l'affaire au fond suit son cours. Je suis traduit devant le Conseil de discipline de l'Université de Lyon. C'est quelque chose de tout à fait ahurissant, s'agissant d'une université dont j'ai pris la défense, et dont j'ai pris la défense à l'occasion d'une conférence de presse que j'ai tenue dans les locaux de ma permanence électorale, et en tant qu'élu, en tant que parlementaire et élu local. Je vais donc me rendre à cette convocation, bien qu'avec mes excellents avocats, dont Maître Valrand Saint-Just, nous excipions naturellement de l'incompétence radicale de cette instance disciplinaire. Je vais donc me rendre main propre et tête haute, et je crois accompagné de nombreux amis qui spontanément vont venir m'apporter leur soutien. Je remercie en particulier les amis de la Fédération de Paris du Front National qui organise, et c'est déjà plein, mais je crois qu'on peut encore trouver de la place ou réouvrir un compartiment, un aller en TGV de façon héroïque ce mardi 1er mars en partant à 6h30 du matin de la gare de Lyon, mardi 1er mars avec un retour à 15h. S'il y a un certain nombre de vos amis qui souhaiteraient m'apporter ce secours qui me touche profondément, plus que je ne saurais le dire, ils peuvent essayer de joindre nos amis parisiens. Permettez-moi de donner le numéro.
J'allais vous le demander, oui, parce que...
au 01 45 22 25 91. C'est organisé par Martial Bild, le directeur de notre magazine, courageux conseiller régional d'Île-de-France, membre de notre bureau politique, 01 45 22 25 91. Alors, je vais passer donc devant cette instance où le recteur Morvan, dont je rappelle qu'un recteur est un universitaire, certes, mais un universitaire qui dépend du pouvoir. C'est une fonction administrative qui est à la discrétion du gouvernement. Il est le représentant du gouvernement. Il a tenu, à mon égard, des propos inqualifiables. Il a porté atteinte à ma présomption d'innocence d'une façon dont aucun procureur n'oserait user à l'égard d'un assassin et d'un violeur d'enfants.
Mais vous le connaissez, ce personnage?
Non, je ne le connaissais pas.
Vous ne l'avez jamais rencontré?
Je l'avais rencontré comme ça, sans animosité particulière. Il se surpasse, là, je dois dire. Et il me reproche, d'ailleurs, mieux instruit du dossier, maintenant, il me reproche non plus ce que j'ai dit, et pour cause, mais ce que je n'ai pas dit. Il déclare que je me suis abrité derrière le fait que je n'étais pas compétent pour refuser de répondre aux questions qui m'étaient posées, et selon lui, c'est une finasserie cousue de fil brun.
Il a du talent, cet homme.
Le personnage était très surprenant.
Il a l'art de l'image, vraiment.
Oui. Mais je l'attaque au pénal, en diffamation, en atteinte à la présomption d'innocence, et en tentative de faire pression sur une instance juridictionnelle, puisqu'il a déjà annoncé que si je n'étais pas révoqué de l'enseignement et chassé ignominieusement pour toujours de l'université, eh bien, il ferait appel. Ce qui, d'ailleurs, s'il disait ça devant un tribunal, cela le constituerait en coupable d'outrage à magistrat. Vous savez que c'est un outrage.
Oui, bien sûr.
À l'avance, un magistrat, avant qu'il ait rendu sa décision, bah, écoutez, si vous ne statuez pas dans tel ou tel sens qui me convient, moi je ferai appel. Nous l'avons également assigné en référé. Il disait partout dans la ville de Lyon qu'il souhaitait en découdre avec moi sur le plan judiciaire, ce qui fait montre de sa part d'une animosité particulière sur les raisons de laquelle j'ai mon idée, mais je n'ai pas encore de certitude. Et en réalité, il a fait intervenir le ministère qui a essayé de décliner la compétence du tribunal civil. Donc, vous voyez, nous sommes...
Il a des points communs avec M. Fillon, non ?
Ah ben, il est le représentant de M. Fillon dans la région Rhône-Alpes. C'est ça, le recteur d'académie, n'est-ce pas ? C'est une espèce de préfet. Lorsque Napoléon a instauré la centralisation en France, il a nommé des représentants de l'État dans les départements qui sont les préfets, avec une exception, c'est une dans le domaine militaire, une dans le domaine de la justice et une autre dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, ce sont les recteurs. Mais j'y insiste, le recteur d'académie n'a aucun pouvoir de décision en ce qui me concerne. Et par conséquent, les outrances de M. Morvan... les outrances de M. Morvan sont à la fois indécentes et parfaitement illégales, selon moi. Et évidemment, je lui en demande compte, mais vous savez, c'est bizarre.
Ah, je crois qu'on a un accident de transmission. On a perdu Bruno Gollnisch. Bon, si on le récupère, je lui redonnerai la parole. En tout cas, donc, je rappelle que si des auditeurs veulent lui apporter leur soutien, ils peuvent téléphoner au 01 45 22 25 91, lui apporter leur soutien en étant présent le 1er mars à la rencontre dont il sera le héros, le personnage central. Il est là ? Bon, merci. Bruno ? Allô, allô ?
Oui.
Nous avons été coupés.
J'ai presque terminé. Je voulais dire que ces agissements étaient bien la preuve que c'est le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement qui me pourchasse, en l'occurrence.
Oui, ça, c'est tout à fait clair. C'est une affaire politique. Est-ce qu'on a retenu contre vous, dans d'autres circonstances, des propos d'une autre nature qui pourraient venir alourdir votre dossier ? Est-ce que, par exemple, vous souvenez d'avoir tenu des propos de caractère homophobe ou des propos de caractère maçonnophobe ?
J'ai toujours défendu la liberté d'expression et la liberté qu'on a précisément de préférer les familles naturelles aux associations de pédérastes ou de lesbiennes ou de préférer précisément que les sociétés secrètes ou les membres des sociétés secrètes soient tenus d'annoncer leur appartenance quand ils exercent une fonction publique afin que les citoyens sachent où ils vont.
J'essaie de comprendre les raisons de l'acharnement de ces gens-là à votre endroit. Les propos que vous avez tenus sont évidemment totalement innocents, je dirais. Ils sont d'une innocuité parfaite. Donc, on comprend mal. Il faut trouver une autre explication que celle simplement de la défense des intérêts moraux des fils, petits-fils, arrière-petits-fils de déportés. Donc, j'essaye de comprendre.
Oui,
pour ça que je pose cette question.
J'ai plusieurs hypothèses, mais je ne puis les formuler n'ayant pas de certitude. Moi, contrairement à M. Morvan, précisément, quand je n'ai pas de preuves à l'encontre de quelqu'un, je garde pour moi mes accusations.
Oui, non, il ne s'agit pas d'accusations, il s'agit de questions.
Bien sûr.
M. Morvan est probablement breton, donc on pourrait imaginer que vous avez émis une opinion défavorable à l'égard des bretons. Je sais pas, parce que c'est un nom breton, moi, je crois.
Ni à l'égard des bretons, ni à l'égard
non.
des autres.
Donc l'explication n'est pas là. Eh ben, il faudra attendre d'en savoir plus. Donc je rappelais aux auditeurs que le 1er mars, à 6h30, un TGV part de... Oui, ça, c'est héroïque. Je vois le marquis qui est à ma droite et qui prend un air douloureux à l'avance, qui se dit, je vais être obligé de me lever à 4h du matin pour être à la gare de Lyon à 6h30. Donc, alors... Pour être à 6h30 à la gare de Lyon et trouver une place dans le TGV qui emmènera vos supporters et vos amis à Lyon, il faut téléphoner au 01 45 22 25 91 et demander à monsieur Martial Bild ou à la personne qui vous répondra de vous indiquer s'il y a une place. Je pense que vous ne regretterez pas votre journée. Je sais pas, enfin,
j'espère.
Connaissant Bruno Gollnisch, je serais étonné que vous ennuyiez.
Je dois dire qu'il vaut mieux descendre peut-être à la gare de Perrache qu'à celle de la Pardieu. Voilà. Qui est la gare de Perrache étant la gare finale du TGV et que la réunion aura lieu devant le 15 quai Claude Bernard, c'est-à-dire l'Université de Lyon, sur les quais du Rhône.
Merci Bruno Gollnisch. Ben écoutez, vous savez... On ne vous dit pas bonne chance parce que comme c'est un peu du théâtre, ça ne se fait pas. Et on vous dit pas ce qu'on dit d'habitude au théâtre parce qu'à la radio, ça ne se fait pas non plus. À très bientôt.
À bientôt.
Voilà. Ben écoutez, c'est bien de faire ça, non?
C'est très bien de faire ça.
Ce qu'on peut espérer, c'est que le train roulera normalement. Moi, je me souviens du train Front National partant pour Carpentras. Au moment des événements de Carpentras, ouais, ouais. Où des mecs se couchaient en travers de la voie à 50 mètres de la gare de Lyon, etc. Enfin, étouffés pour que ça fonctionne pas. Là,
c'est vraiment dommage que les cheminots se soient arrêtés en si bon chemin.
Eh oui.
On lui suggérerait...
Oui, monsieur Féjean, qui est mon invité de la deuxième partie.
Enfin, je voudrais dire que ce qui arrive à Gollnisch est proprement scandaleux. Mais les scandales sont tellement fréquents maintenant que statistiquement, ça devient normal. Et la plupart des gens y font de moins en moins attention.
C'est une très très grande banalité, en somme.
Bien sûr.
D'ailleurs, on est en plein dans l'actualité. Je dois dire que l'affaire Dieudonné est exemplaire à cet égard. Alors, je ne veux pas m'étendre dessus. Mais
qui
aurait d'ailleurs envie de s'étendre sur Dieudonné, évidemment. Mais il y a quand même, je veux le signaler, qu'il y a un papier dans le Libre Journal. Alors, c'est amusant parce que j'étais très fier d'avoir découvert la clé de cette affaire et plus exactement l'origine cachée de cette affaire. Et puis ce matin, une radio de propagande d'État a trouvé la même chose que moi, mais l'a interprétée d'une façon différente et a interviewé une dame qui a expliqué que quand elle avait employé le mot de pornographie mémorielle. D'abord, elle a dit qu'elle ne l'avait pas employé, contrairement à ce qu'affirmait Dieudonné, qui dit qu'il a pris ce mot dans l'œuvre de Madame Edith Zertal, laquelle, on est allé la chercher en Israël où elle réside, a dit qu'elle était épouvantée qu'on puisse utiliser un mot qu'elle n'avait même pas employé dans son livre. Forcément, son livre est écrit en anglais. Alors, elle ne risquait pas d'utiliser le mot pornographie mémorielle, puisque c'est pas de l'anglais jusqu'à plus ample informé. Seulement, le problème, c'est que elle a un traducteur, cette dame, qui est un traducteur qui est intéressant, d'ailleurs, parce que c'est un garçon qui s'appelle Marc Saint-Huppéry. Pas ex, il est toujours lui, Marc Saint-Huppéry. Et alors, ce monsieur Saint-Huppéry, qui est donc le traducteur d'Edith Zertal, a traduit son livre dans lequel il utilise la locution en question, pornographie mémorielle, mais il a fait mieux que ça, il a réagi, alors c'est amusant parce que ça nous rapproche quand même un petit peu de l'affaire Gollnisch. Il a réagi, ce monsieur Saint-Huppéry, qui n'a absolument rien d'un homme de droit, je m'empresse de le préciser, puisque c'est un collaborateur du monde diplomatique où on recrute quand même pas beaucoup de fascistes. Il est d'autre part le biographe et l'ami du cinéaste Michael Moore, l'ultra-progressiste Michael Moore. Il est le défenseur avec Daniel Mitterrand de l'assassin de afro-américain condamné à mort, Mumia Abu-Jamal.
Cochonnerie pure peur, là. Oui, oui.
Et il est spécialiste des mouvements de guérilla en Amérique du Sud, en Amérique latine. Donc c'est vraiment une grande figure de la gauche, l'extrême gauche, la plus enthousiaste et donc la plus antiraciste. Et n'empêche que quand Monsieur Ruffin, c'est pour ça que je dis que ça nous ramène à l'affaire Gollnisch, ou ça nous rapproche de l'affaire Gollnisch, quand Monsieur Ruffin a publié son texte sur son fameux rapport, le fameux rapport Ruffin, qui est à l'origine de l'affaire Gollnisch, puisque c'est à ce propos-là qu'on avait interrogé Bruno, quand il a lu ce texte, M. Saint-Huppéry, il a écrit un texte intitulé « Je suis antisémite ». Et il ironise dans ce texte en disant « Il est désormais clair que je suis un antisémite dans la mesure où je suis globalement d'accord avec les opinions qui suivent ». Et là, il aligne une série d'opinions qui sont effectivement au regard de l'hystérie actuelle en France, qui pourraient être considérées comme antisémites. Ce sont des propos que je ne vais pas prendre le risque de vous lire au micro parce qu'on risquerait de m'en faire porter le chapeau. Mais ce sont des propos qui montrent que certaines personnes n'ont pas pour l'Israël toute la dévotion respectueuse que les dirigeants de ce pays exigent et les supporters de ce pays exigent. Et alors, simplement le problème, c'est que toutes les citations que fait M. Saint-Huppéry, elles sont signées de gens comme Avraham Burg, membre du Parti travailliste israélien, ex-président de la Knesset, M. Tony Yute, historien juif anglo-américain libéral, M. Haïm Hanegbi, israélien, membre du mouvement pacifiste Gush Shalom. Et donc, c'est quand même assez difficile de démontrer que ces gens-là sont des antisémites. Moi, je veux bien qu'on m'explique n'importe quoi, mais ça, c'est un peu difficile. Et alors, ce monsieur Saint-Huppéry terminait en écrivant en expliquant qu'il fallait réagir contre le fantasme idéologique contacté par une petite mafia de pervers qui vivent de la promotion d'un narcissisme communautaire paranoïaque. Alors, je vous ai pas promis que ça serait du bon français. Je vous lis un texte, hein. D'un narcissisme communautaire paranoïaque, heureusement loin d'être hégémonique chez les Juifs de France, et de la pornographie mémorielle au service d'une raison d'État coloniale sans vergogne. Ça, c'était publié au mois d'octobre sur Internet. Vous pouvez taper Saint-Huppéry, vous trouverez ce texte. Et donc, c'est là-dedans que Monsieur Dieudonné est allé chercher son expression.
La seule faute de Dieudonné, c'est d'avoir de mauvaises lectures.
Voilà, c'est ça. Non, la seule faute de Dieudonné, c'est de ne pas avoir compris bien comment le système fonctionne. Parce que, il faut dire une chose, depuis qu'il y a eu cette affaire, il y a eu un peu de noir de fumée, parce que c'est pas autre chose, j'ai vu les photographies de l'incident, un peu de noir de fumée qui a souillé la porte d'un wagon symbolique qui est à Drancy. La porte est pas du tout abîmée ni rien, il y a du noir de fumée parce que un crétin, c'est vraiment un crétin, et peut-être même un crétin exotique, a posé devant cette porte une petite canette avec un liquide inflammable à l'intérieur qui s'est enflammé, comme son nom l'indique, et qui a donc envoyé de la fumée en l'air, et cette fumée a noirci un petit peu la porte. Mais c'est du noir de fumée. Et naturellement, on a vu immédiatement débouler le banc et l'arrière-banc, alors le maire, le sous-maire, le préfet, le ministre, etc., contre cet acte inqualifiable. Je crois même que Chirac, qui était à Bruxelles, ou je ne sais où, a envoyé un message d'urgence pour dire toute sa souffrance, ce que je comprends très très bien d'ailleurs, mais on a posé la question de savoir si les gens qui avaient fait ça n'avaient pas été inspirés par Dieudonné. Alors, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des limites au ridicule. Hein. Faudrait peut-être arrêter de raconter n'importe quelle connerie aux Français, parce que les Français commencent à être un peu fatigués d'être pris que pour des idiots. Hein. On aimerait bien de temps en temps qu'on admette cette idée bête qu'on a aussi un tout petit peu de cervelle dans la boîte crânienne et qu'on arrive à s'en servir. Même si la majorité des habitants de ce pays votent comme des abrutis depuis un demi-siècle, même s'il est complètement rendu idiot, fou, bête, paresseux, lâche par le matraquage, il lui reste quand même un tout petit peu de cervelle. Et on aura du mal à nous faire croire que quand Dieudonné dit à Alger quelque chose, c'est pour inspirer des gens en France de mettre du noir de fumée sur la porte du wagon de Drancy.
D'autant qu'il faut déjà avoir une certaine culture pour savoir quel wagon à Drancy déjà.
Qu'il y a un wagon à Drancy. Bon. D'autant que l'auteur des propos, c'est une chose, mais Dieudonné, il a dit ça dans une conférence de presse à Alger. Vous avez souvent entendu parler des propos tenus par tel ou tel clampin, tel ou tel histrion qui va... Jamais. Là, il y a quelqu'un qui était sur place qui s'est dit « bon sang », mais c'est bien sûr, et qui a donné qui a fait tout le raffut. Donc s'il y a un responsable dans cette histoire, c'est pas Dieudonné, puisque Dieudonné, il a dit ça à des gens qui sont éloignés, et personne en France n'aurait dû entendre ses propos. Si ses propos en France ont été entendus, c'est parce qu'ils ont été colportés, et parce qu'ils ont été largement amplifiés par les médias.
Mais c'est le téléphone arabe.
Oui, c'est eux qui sont en définitive
voilà.
responsables.
Donc les responsables, c'est pas celui qui dit une connerie. Quand il est tout seul dans son jardin, hein, s'il dit un propos antisémite, après tout, c'est pas bien grave. Celui qui, en revanche, prend un micro, un mégaphone. Pour monter sur le toit en disant « Mon voisin, dans son jardin, quand il était tout seul, il a dit ça », alors là, lui, il est responsable, parce que c'est lui qui donne de l'effet aux propos. Et d'ailleurs, la justice le reconnaît d'une façon évidente, puisque quand il y a un délit de presse, c'est le support de presse qui est coupable du délit.
Et non pas l'auteur.
L'auteur de l'article n'est que complice.
Oui.
Alors, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Diodo? Ils vont le condamner. D'ailleurs, il n'aura pas volé. En plus, ce qui me fait rigoler quand même, c'est que pendant des années, ce type a conchié le pape, l'église, les bonnes sœurs. Personne n'en avait rien à foutre. Et là, d'un seul coup, ça devient intolérable. Alors là, il y a une phrase admirable d'ailleurs, on apprend que le ministre, le garde des Sceaux, a fait ouvrir une enquête pour voir à quel délit on peut rattacher les propos de M. Dieudonné. Ça veut dire que personne ne sait foutre rien de ce qu'il a fait de mal. Mais il faut ouvrir une enquête pour voir si par hasard il n'y aurait pas un moyen de le coincer en trouvant un délit qui correspondrait. C'est quand même extraordinaire ça. Parce que quand quelqu'un vole quelque chose, ça s'appelle un vol. S'il tue sa voisine, ça s'appelle un meurtre ou un assassinat selon qu'il l'a fait avec ou sans préméditation. Si il bouffe la ligne jaune, ça s'appelle un non-respect du code de la route. Et là, il n'y a pas besoin d'ouvrir une enquête pour savoir à quel délit on peut le rattacher.
Des délits où il n'y a pas.
Et d'ailleurs, la qualification de l'inculpation, c'est une inculpation précise, c'est-à-dire vol, vol avec violence ou escroquerie ou bon. Mais là, dans le cas de Dieudonné, ce qui est fabuleux, c'est qu'on dit on vous inculpe. Et attendez un peu, vous allez voir de quoi on va vous inculper. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, mais dans quelques jours, on trouvera bien quelque chose. C'est prodigieux. On est dans une société de dingo.
De plainte, alors c'est pas facile.
De dingo. Alors, à côté de ça, le grand scandale, bien entendu. Tout ça, c'est pot de balle et valet de crin. À côté de l'immense scandale que continue à mouliner le canard enchaîné, qui a découvert que, vous rendez compte, Monsieur Guémard est propriétaire d'un appartement à Paris. Alors ces mecs-là, j'étais directeur de Minute pendant des années, on nous disait à longueur de temps, vous n'avez pas honte, vous vous en prenez à la vie privée. Mais, je veux dire, nous on s'en prenait à la vie privée pour des raisons positives, c'est-à-dire que c'était des gars qui usaient de leur pouvoir dans leur privé d'une façon scandaleuse. Mais être propriétaire pour un ministre d'un appartement de 200 mètres carrés à Paris, c'est pour un ministre ou pour devenir n'importe qui, s'il a la chance de pouvoir être propriétaire, je vois pas en quoi c'est honteux. Bon. D'autre part, il peut être très bien propriétaire et habiter un autre appartement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation, qui sont propriétaires d'appartements et qui habitent dans un autre.
Ouais.
Il n'y a quand même pas de quoi faire un fromage pareil.
J'ai le droit de dire un mot.
Oui, oui.
Je me pose une question toute simple. On est ministre, très bien, mais on n'est pas ministre toute une vie. C'est-à-dire, on a été, avant d'être ministre, quelque chose, on sera encore quelque chose après avoir été ministre. Alors, je ne vois pas pourquoi un type qui devient ministre et qui va donc au bureau tous les matins continuerait pas à rentrer chez lui dans l'appartement qu'il avait avant d'être ministre. L'appartement de fonction, par définition, c'est un local sur les lieux du travail pour se changer ou pour passer une nuit parce qu'on a travaillé toute la nuit, etc. Mais un appartement de fonction à 3 km du lieu de travail, à mon avis, c'est déjà plus un appartement de fonction.
Oui, mais écoutez,
c'est là que ça me gêne un peu.
On vous a jamais proposé d'être ministre, mon cher Marquis.
Ah, j'entends bien.
Voilà, vous comprenez, on vient me voir, on me dit, vous allez être ministre. Bien sûr, avec plaisir. Et qu'est-ce que j'ai droit à? Ben, vous avez droit à une voiture avec chauffeur. Ça me va. Vous avez droit à un salaire de 180 000 euros par an, dont 80%
d'accord.
seulement paieront des impôts. Ça me va aussi. Vous avez droit à un domestique. Je veux bien. On peut pas en avoir deux. Si, vous en aurez deux.
Bon. Mais le Rassemblement, ne critiquons pas la beurette qui est la NPE à la même démarche.
Mais je critique personne.
Voilà, j'ai le droit à ça, je le prends. Bon, voilà. Bien. Alors, parfait, bien sûr, oui. Mais alors, tout le monde.
Mais non, mais d'accord, mais moi, je trouve... Vous comprenez, tous les ministres font ça, tous. Ils ont toujours fait ça, tous,
oui,
sans exception.
Bien sûr.
Chirac, il était propriétaire, il avait une maison qui était louée 3 francs 6 sous,
oui,
qui appartenait à Ville de Paris, etc. Tout le monde a toujours fait ça, simplement, on les a peu attaqués. Quand c'est des ministres de gauche, en tout cas, jamais. Jamais ils n'ont été attaqués par la presse. En revanche, Guémard, il faut bien reconnaître une chose, je l'ai blagué la semaine dernière, mais... Il est attaqué pour une raison très simple. On le voit, il n'y a qu'à lire les papiers, d'ailleurs. C'est parce qu'il a 8 enfants. Oui, ça, c'est scandaleux.
Bien sûr. Mais
il a 8 enfants, c'est un scandale. Et en plus, il est le gendre du professeur Lejeune, ce qui est vraiment très
mal. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Si, ça c'est beaucoup dit.
Ça, c'est très étalé.
Oui, mais demandez aux gens qui est le professeur Lejeune, la moitié ne savent pas.
Donc... Ah, mais c'est le chef des commandos anti-avortement.
Ah oui, bon.
Eh oui, c'est lui qui attaque dans les églises, dans les avortoirs.
Oui, alors à ce moment-là, il faut...
Vous saviez pas ça?
Il faut essayer d'être inattaquable à un certain moment aussi.
Ah bon, ça y est. Voilà, c'est injuste qui nous tombe.
Mais non, mais là, en partant dans l'appartement de 600 mètres carrés rue Jean Goujon, c'était sûr de se prendre les pieds dans le tête.
Puis, en plus, il y a été 15 jours, il n'avait même pas défait ses paquets.
Mais ça coûte la peau des fesses pour avoir refait l'appartement. Maintenant, il va falloir le refaire pour le prochain locataire.
Mais si on lui propose 600 mètres carrés, il les prend. Moi, si on me propose 600 mètres carrés, demain, je prends.
À la limite, ce que je critique, ce n'est pas M. Guémard, c'est le système d'État qui le permet. C'est-à-dire, il y a un fonctionnaire quelque part qui a signé l'autorisation de prendre l'appartement. Il y a un fonctionnaire quelque part qui a signé l'autorisation de refaire l'appartement. C'est le système qui n'est pas normal.
Il y a un truc qui est très intéressant.
La nuit du 4 août, c'était l'abolition des privilèges.
Ouais. Ça, c'est raté. Ce n'était pas l'abolition, c'était l'évolution des privilèges. Non, il y a autre chose qui est, à mon avis, qui mérite d'être dit dans cette histoire, c'est que on a ouvert une enquête, curieusement, pour savoir d'où vient la fuite. Ça me paraît déjà ébouriffant.
Il est pas coupable.
Mais en plus, à mon avis, il faut pas chercher très très loin.
C'est Sarkozy, ça, non?
Mais enfin, écoutez, Guémard, il a été mis en place par Chirac pour flinguer Sarkozy.
Ben voilà. Hein,
pour être une espèce de contre-feu. Bon, là, c'est raté complètement. Le contre-feu, il est caramélisé. Il va falloir changer de contre-feu. Mais, à mon avis, il faudrait chercher au ministère, à Bercy, s'il n'y a pas un vieux copain de Sarkozy qui reste en poste.
Et cela dit, on peut en profiter pour mesurer la solidarité gouvernementale, parce qu'ils le flinguent tous un par un. Là. Toutes les déclarations ce matin, à la sortie du Conseil, c'est « ben oui, le pauvre vieux, il aurait dû faire attention ».
Aucune solidarité gouvernementale, ils se bouffent le nez, ils ont bien raison d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'en tirera peut-être. Voilà, enfin, je voulais à peu près dire ça. Sur l'actualité, c'est, crois, tout ce qu'on peut dire. Est-ce que... Non, je crois que Goffman, qui voulait nous appeler, ou qu'on devait appeler, n'est pas en ligne. On verra tout à l'heure.
Serge, Bercy, ça a été... Enfin, les locaux, les nouveaux locaux, là, ils ont été construits quand?
Oh là là.
Pour installer, c'est pas très vieux.
C'était du temps de Balladur que ça se mettait
en place. Est-ce qu'on prévoyait à ce moment-là qu'il y aurait deux ministres, il y a deux logements? Or là, il y a quatre ministres. Ça, c'est pas une inflation, là aussi?
Mais la place est tellement bonne, c'est énorme. Puis, vraiment, alors là, pour une fois qu'il n'y a pas de chômage.
Enfin, je sais pas, Pompidou rentrait chez lui, Giscard rentrait chez lui, qu'est-ce qu'ils ont besoin
d'avoir? Payait son électricité.
Giscard rentrait chez lui, pas toujours.
Oui, enfin, il prenait des chemins détournés, mais.
Dans sa deux chevaux.
Quoi, De Gaulle payait son électricité?
Oui,
mais vous rigolez, ça.
Moi, ça a été dit, je le répète.
Oui, d'accord.
Vous croyez tout ce qu'on vous dit à la télévision?
Est-ce que nous aurons Goffman? Ou...
Non, il a pas l'air.
Oui, on va l'avoir.
Il est en vadrouille.
Voilà. J'en profite pour signaler quand même... Alors, voilà comment on fait de la presse. Le Ribot a droit à un petit article dans le Dauphiné libéré. Hein. Maudit savant, c'est intitulé.
Ça commence bien.
Loïc Le Ribot, l'inventeur. Alors, écoutez bien ça. Après 7 années de cavale, Le Ribot est intercepté à Genève en novembre 2003. Extradé et condamné 2004 à 1 an de prison... Il est remis en liberté peu après. C'est en Suisse qu'il a trouvé refuge depuis et que deux journalistes de la Tribune de Genève l'ont rencontré. Et alors, débusqué en Suisse, il y a une légende, débusqué en Suisse, Loïc Le Ribot s'est confié à deux journalistes. Débusqué, il a dit à tout le monde qu'il était en Suisse, dormir à dormir. Mais ils l'ont débusqué, ils sont forts les gars. Et alors, donc, les journalistes remontent le fil d'une épopée où se mêlent pratiques policières, expériences scientifiques et médecine alternative, dont le G5 est un fleuron. Désormais, pour Loïc Le Ribot, s'ouvrent aujourd'hui les portes suisses d'un avenir doré de faiseurs de miracles dans un univers où les symptômes douloureux sont en quête perpétuelle de parade à la mystérieuse alchimie. Mes enfants, ça c'est du journalisme. Hein.
Charmant.
Hein, c'est quand même, les symptômes douloureux sont en quête perpétuelle de parade. Alors c'est signé AB, malheureusement,
il n'y
a pas de nom, mais grand journaliste, hein. chapeau bas devant la guerre éclair. Voilà, Goffman est là. Alors on va parler d'un vrai journal maintenant, n'est-ce pas, mon cher Patrick?
Bonsoir, Serge de Beckett. Je salue le marquis et tous vos invités et vos auditeurs innombrables dans le monde entier.
Et Victoria, vous la saluez pas, alors?
Non, ah, oui, il est mal élevé.
Je me traîne à ses pieds. Et je
ah, voilà, il se traîne à vos pieds. Ah. Ça vous va? Bon.
C'est parfait, je vous relève, je vous relève.
Alors, qu'est-ce qui se passe de beau dans votre...
Il se passe, mon cher Serge, que j'ai sous les yeux le numéro 343 du Décadaire, le libre journal de la France française, dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire de rédaction, et j'en suis d'autant plus fier que, comme vous avez commencé à y faire allusion, mais je vais le dire précisément, nous sommes plus que dans les temps sur la très importante, la cruciale affaire Dieudonné. Je n'exagère pas, vous me l'accordez, puisque le garde des Sceaux, ministre de la Justice, appelle hier matin sur toutes les radios, je cite, à la mobilisation de tous dans ce pays. Bon, c'est un accident s'il a employé ce vocable marxiste, internationaliste. Vous savez, quand on n'aime pas la France, on ne peut même pas la nommer, elle est innommable. Alors, en tordant la bouche, on dit ce pays. C'est-à-dire ce pays où on est obligé de vivre et de préparer naturellement l'annihilation des nations. Mais je m'égare. Nous avons trois pages, je ne vais pas m'y attarder puisque vous en avez déjà parlé. Nous avons trois pages sur l'affaire, la très importante affaire Dieudonné, où comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous montrons que l'expression de pornographie mémorielle, Le Parisien Libéré par exemple, on est encore à accuser Dieudonné, qui n'en demande pas tant, de qualifier la Shoah de pornographie, alors que bien entendu, ce sont les commémorations qu'il a qualifiées de la sorte, en citant d'ailleurs effectivement des auteurs de gauche et d'extrême gauche, israéliens, journalistes au monde diplomatique. Voilà, nous avons trois pages, tout à fait en avance sur la plupart des autres médias sur cette affaire. Nous avons aussi les tribulations, le dernier épisode des tribulations en Chine, de notre divin marquis, mais également sa chronique décadaire habituelle, où, entre mille choses, il nous révèle le terrible secret de la naissance de Gérard de Villiers. Je n'en dis pas davantage. Et j'espère qu'il va tenir sa langue dans votre émission pour obliger nos éditeurs à acheter le journal.
Je peux pas parler.
Alors, je n'énumère pas nos signatures historiques. François Brignon, qui continue sa chronique des 15 présidents qu'il a connus dans sa longue vie, Jérôme Brigadier, Serge de Beketch et tous les autres. Et je rappelle simplement donc à nos auditeurs avaricieux qu'ils peuvent nous consulter sur notre site francecourtoise en un seul mot .info et qu'ils peuvent donc, s'ils ont 5 euros à mettre dans le commerce, envoyer ces 5 euros ou un carnet de timbre pour avoir un spécimen. Les bien comprenants qui ont déjà leur chéquier en main, libellent 110 euros à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75-010, Paris.
Eh bien, merci, mon cher Patrick.
Merci, Serge.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Voilà. Alors un auditeur dit, monsieur de Beketch, lorsque Dieudonné insultait les Blancs, vous protestiez. Maintenant qu'il insulte les Juifs, vous prenez sa défense. Pas vrai du tout. J'ai vu exactement le contraire. Il faudrait écouter avant de téléphoner. C'est mieux, ça évite de dire des bêtises. Bien. Alors maintenant, je me tourne vers mon invité de ce soir, qui est René Féjean. René Féjean, qui est ancien chef de département à la faculté de médecine, mais avec lequel on ne va pas du tout parler de médecine, curieusement, puisqu'il paraît que c'est une de mes spécialités. Ni de médecine parallèle, ni de médecine oblique, ni de médecine perpendiculaire. On va parler de vol bionique. Alors, la question est la suivante. Depuis toujours, l'homme est passionné par l'idée de voler. C'est le fameux rêve d'Icare. Et René Féjean, avec qui j'ai longuement et plusieurs fois parlé de ces questions, lui tient pour certain que dans un avenir très proche, on pourra voler. Un homme pourra voler, mais voler tout seul, sans moteur, sans engin de lancement, simplement grâce à, on va en parler, des nouveaux profils de voilure, d'ailes, qu'il travaille à mettre au point. Alors, j'ai demandé à René Feijan de venir ce soir parce que, d'abord, c'est un personnage, vous le découvrirez ce soir et vous le redécouvrirez dans une autre émission qu'on est en train de préparer sur un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est une sorte d'homme proté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de sujets d'intérêt, qui est passionnant, mais qui a une originalité dans un monde où il y a beaucoup de chercheurs. Lui, c'est un trouveur. Alors, il se contente pas de chercher, il trouve, et il trouve selon le bon vieux principe qui veut que, comme je ne savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Alors en l'occurrence, je le sais puisqu'il l'a raconté, on lui a expliqué, tous les ingénieurs aéronautiques, tous les spécialistes lui ont expliqué que son idée était absolument inapplicable. Le seul problème, c'est que quand il a commencé à faire ce qui était impossible, ça a marché. Alors, ça gêne un peu tout le monde, ou en tout cas, ça trouble beaucoup de monde. Et j'ai demandé donc à ce chercheur qui trouve de venir nous expliquer, d'une part, quelle est la situation du chercheur qui trouve en France, qui est une situation finalement assez peu revendiquée, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis d'autre part, ce qu'il a trouvé, et comment ça marche, comme dirait notre ami de TF1, c'est ça ? Comment ça marche ? Alors, René Feijan, d'abord, vous faisiez une remarque hors micro, c'est que des chercheurs, on en trouve, des trouveurs, on en cherche. C'est selon la phrase célèbre. Est-ce que vous avez des chiffres à l'appui de cette démonstration ?
Oui, bien sûr. Je voulais simplement faire une petite remarque sur ce qui a été dit. Il est évident, quand on voit une actualité aussi morose, aussi crapuleuse et aussi bizarre que celle que nous vivons, eh bien, vous ne serez pas étonné qu'on aspire à prendre de la hauteur et que la bionique est le meilleur instrument pour le faire. Maintenant, je vais revenir, eh bien, puisqu'on est dans le ton des scandales, eh bien, je vais en énoncer un qui me paraît extrêmement grand et préjudiciable en France. Les politiques ont une préoccupation essentielle, c'est de dire il faut se préoccuper de couper le gâteau avec des parts aussi équitables que possible. Ça donne lieu à ce qu'on appelle l'économie. Mais on se préoccupe pas de ceux qui font la tarte et qui la font lever. Et en général, ces gens-là, ce sont des chercheurs. Et toute l'économie mondiale, on s'est aperçu que la place d'un pays sur l'échiquier international dépendait du nombre de ses dépôts de brevets. Eh bien, il y a 100 ans, nous étions les leaders en Europe sur le plan des dépôts de brevets. Alors, expliquez-moi pourquoi maintenant nous sommes arrivés loin en 12e position en Europe, sur l'Europe des 15, nous sommes 12e. Manifestement, tous les chercheurs français ne produisent plus ou sont devenus stériles. Il y a des raisons à cela. C'est peut-être, on va essayer de l'aborder dans un moment. C'est une étude qui a été faite par Eurostat, qui est l'office statistique des communautés européennes, et c'est très inquiétant. Nous dégringolons de plus en plus. Sur 77 550 chercheurs en France, fonctionnarisés, eh bien, il y en a très très peu qui sont capables de déposer des brevets. Si je prends par exemple le CNRS, sur 1000 chercheurs au CNRS, eh bien, il y a seulement 8 dépôts de brevets par 1000 chercheurs. Ce qui est scandaleux. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand un chercheur est fonctionnarisé, on lui enlève sa dynamique sur la recherche. Il ne cherche plus, il est payé quoi qu'il fasse. Et en plus, il est payé sur un plan avec une enveloppe budgétaire. Alors, pourquoi se fatiguerait-il ? Il a pas de challenge, et on lui demande simplement d'être, excusez-moi un terme qui est très employé en université, être un piscopie. C'est-à-dire, il fait de la copie de traduction de travaux américains qui arrivent 5 ans après les travaux originaux. Donc, on a un décalage qui devient énorme, et l'économie, on distingue plus la droite de la gauche en politique, parce qu'on somnibule sur les parts de marché, alors qu'on se préoccupe pas que nos chercheurs actuellement ne sont plus capables de mettre quelque chose au four. Alors, comment pourrait-on faire ? Et là, c'est une suggestion que je fais. Au lieu de dispenser des enveloppes budgétaires où on épuise à fond le contenu de cette enveloppe de peur que l'année prochaine, eh bien, on n'ait pas autant de subventions, il serait me semble-t-il, plus intelligent, et c'est une suggestion que je fais aux responsables politiques, eh bien, c'est de payer les gens sur les résultats, et c'est de créer des challenges, des émulations, oui. Et si un groupe de recherche invente quelque chose, eh bien, on le lance et on le gratifie. C'est la meilleure façon de le faire. Actuellement, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CNRS, tous ces grands instituts de recherche sont des grands dortoirs, où les gens ne se réveillent pas, et puis la recherche s'endort progressivement, et les Allemands, l'Irlande, vous vous rendez compte, est en première position, l'Allemagne en deuxième position, l'Islande, la Belgique, même la Belgique, alors on se moque des Belges, excusez-moi, mais ils produisent davantage, beaucoup plus que les Français, l'Autriche, le Luxembourg, la Suède, le Portugal,
l'Inde. Mais ce n'est pas des pays socialistes, tout ça. Même non, si c'est des pays où il y a des socialistes au pouvoir, ils ne sont pas socialistes dans leur structure.
Les Pays-Bas et le Danemark, et nous arrivons tout à fait derrière, voilà. On est bien calé derrière. Alors, je vous annonce que les dépôts de brevets baissent prodigieusement d'année en année. Alors, qui va dénoncer cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça, le nerf de l'économie française. Ce sont pas les politiques qui coupent des parts. Vous savez, l'injustice, elle est pas grave, elle est pas gênante quand les parts du gâteau sont très très grandes. Par contre, quand on n'a rien à partager, eh bien, on se dispute sur un gâteau qui se ratiocine de plus en plus. Voilà ce que je voulais dire sur la politique de la recherche en France.
Alors vous n'êtes pas concerné, puisque vous n'êtes pas un chercheur appointé, vous êtes un chercheur libre, indépendant et autofinancé.
C'est vrai, c'est pas vrai, je travaille aussi pour un laboratoire, mais c'est vrai, je suis libre, entre guillemets, mais comment peut-on être libre dans un monde aussi aliéné que le nôtre? Et c'est vrai que la première des libertés, eh bien, c'est la création. Mais la création, ça pose encore un problème, parce que toute recherche est insurrectionnelle, et à chaque fois qu'un chercheur crée quelque chose, eh bien, il conteste une création antérieure et il rentre dans un conflit permanent. Alors, le chercheur qui aide la société à vivre, finalement, est très mal reçu parce que c'est un empêcheur de tourner en rond. Le chercheur remet en question constamment les acquis traditionnels pour faire évoluer cette société qui freine des quatre freins.
Oui, j'avais au téléphone tout récemment un chercheur, un trouveur, qui a mis au point un système assez simple finalement, enfin d'après ses explications assez simple, qui permettait de couper instantanément tout début d'incendie sur une machine, que ce soit un bus ou une voiture, un camion, un avion même. Et il a déposé un brevet, il a commencé à se bagarrer pour obtenir il a obtenu l'homologation bien sûr, mais il a commencé à se bagarrer pour obtenir la commercialisation. Et ben, il a eu, en France, il a eu toutes les peines du monde à trouver, et finalement, il n'a pas trouvé assez vite pour refinancer la protection de son brevet, et il a reçu récemment une lettre commandée lui annonçant que son brevet n'était plus couvert. Et ce qui paraît assez évident, c'est que c'est parfaitement organisé pour que des margoulins prennent le brevet, puisqu'il est plus protégé, ils s'en emparent, et puis après, alors c'est assez facile à faire, je veux dire, et après ils l'utilisent à leur propre profit, en changeant deux trucs dedans. C'est la fameuse technique des laboratoires pharmaceutiques, consiste à changer une demi-molécule dans un médicament pour pouvoir redéposer et passer au travers de la prescription, je crois que c'est 30, qu'est-ce que c'est 20 ans pour un médicament, 20 ou 30 ans, je sais plus.
Non, c'est beaucoup moins maintenant.
C'est moins maintenant, oui. Voilà, alors, donc, dans votre cas, même si vous êtes chercheur appointé pour des laboratoires, l'activité que vous conduisez dans le domaine du vol bionique, ça, c'est une activité purement individuelle. C'est une initiative personnelle qui est fondée sur votre enthousiasme personnel pour ça.
Du fait que la liberté est de plus en plus limitée sur le plan horizontal, j'ai la liberté du noyau de cerise quand il est pressé, c'est-à-dire je fuse vers le haut et j'essaye d'échapper à cette triste réalité que nous vivons. Mais bon, la première fois que j'ai vu un parapente voler dans les Alpes, j'ai été vraiment émerveillé parce que c'est vraiment magique, c'est extraordinaire. Il faudrait que nos auditeurs se rendent compte du plaisir d'abord de les voir voler, et s'ils peuvent aussi faire un vol, et bien de se rendre compte ce que nous ressentons en vol. C'est quelque chose qui est indescriptible. Et la bionique est née sur les pentes du Vexin à Saint-Clair-sur-Epte, où il y a une école de parapente qui est très très efficace, qui fait du très bon travail, et où chacun pourra faire un baptême s'il veut y aller, ou apprendre le parapente.
Alors le parapente, c'est une espèce de parachute qu'on déploie derrière soi en descendant le long d'une pente, ce qui le gonfle. Et vous, c'est ça en gros, ou je dis vraiment une bêtise énorme?
Non, c'est pas une bêtise. Il y a quelques petites erreurs dedans. C'est en gros pour vous faire comprendre, parce que je vais pas rentrer dans le domaine technique, parce que ça n'aura aucun intérêt ici. Mais en gros, si vous vous représentez un parachute rond, les anciens parachutes,
pour les TRP, je sais plus quoi.
Voilà, c'est ça. Eh bien, vous prenez une tranche médiane du parachute au milieu et vous tirez dessus et vous avez un parapente. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, les précurseurs.
Donc ils ont supprimé en fait deux parties de la coupole. Pas vraiment des hémisphères, mais parce qu'autrement il n'y en aurait plus rien, mais des parties de la coupole. Mmh. Et ils ont une bande courbe.
Voilà.
Alors, quel est l'avantage par rapport au parachute traditionnel au TAP?
Le parachute, il a une vocation, c'est de descendre dans le meilleur état possible. Par contre, le parapente, il a pour but, lui, de monter. Donc, le but est fondamentalement différent. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, on va atterrir.
Alors, qu'est-ce qui fait que quand on enlève les deux bouts de coupole, il monte au lieu de descendre, ce qui est son mouvement
naturel? On enlève les deux coupoles parce que le parachute, c'était fait pour descendre, tout simplement. Ça accuse une traînée, c'est-à-dire une résistance à l'air qui est trop importante. Et en enlevant, eh bien, on a une vitesse sur trajectoire qui nous permet d'avancer. Et le moteur du parapente, c'est le poids du pilote, tout simplement. Avec une incidence sur l'aile, on avance. Et à travers des thermiques ou un vent dynamique, eh bien, nous
thermiques, c'est-à-dire des mouvements de chaleur.
Des mouvements de chaleur
qui montent du sol.
Perceptibles, qui viennent du sol, mais nous les ressentons très très bien. Mmh. Et on arrive au bout d'un certain temps à ressentir un peu comme l'oiseau. On a la même intuition. On sait à quel endroit il faut aller pour pouvoir bénéficier d'un thermique et monter en altitude. Il y a le record actuellement de l'Île-de-France en parapente, c'est quand même assez étonnant, c'est quand même 171 km et le record du monde, il est de 431 km. Il n'y a pas de moteur, hein, c'est simple, on voit exactement comme dans un albatros.
C'est ça. Bon. Alors, ça c'est fait donc avec l'appareil simple que vous nous avez décrit, enfin qui est donc une espèce de morceau de parachute traditionnel.
Qui est truffé d'erreurs sur le plan aérodynamique.
Bon, alors justement, pourquoi? Quel est l'inconvénient de ce système? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans?
Le système, il nous a satisfait pendant 20 ans. L'ennui, c'est que depuis 5-6 ans, eh bien, il n'évolue plus. C'est-à-dire qu'en performance et en sécurité, bon, on a à peu près le même niveau de sécurité, mais en performance, le système n'évolue plus. Donc, quand j'ai commencé à faire du parapente sur ces voiles traditionnelles, très vite j'ai perçu qu'il y avait des problèmes et qu'on pouvait les améliorer. Et j'ai complètement repensé le système à zéro en disant quel est le modèle disons, d'animal volant ou l'aéronef qui puisse avoir une efficacité remarquable dans le vol, et c'est l'oiseau, parce que au bout de plusieurs millions d'années, eh bien, on a un produit final qui est optimisé et qui est quasiment parfait. Donc, je me suis basé sur l'étude des oiseaux, notamment des aigles ou des goélands, peu importe, en me disant, mais comment vais-je pouvoir approcher ce modèle qui est que nos précurseurs ont tous essayé, que ce soit Adler, que ce soit Jean-Marie Lebris et beaucoup d'autres. Ils ont essayé d'approcher par la bionique le vol des oiseaux. Malheureusement, la technologie ou les capacités n'étaient pas là et ils n'ont pas réussi.
Mais alors, dès le début, Léonard de Vinci, par exemple, les premiers hommes qui ont pensé à voler ou qui ont essayé de fabriquer des engins leur permettant de voler, ils ont d'abord... En tout cas, c'est ce que dit la tradition. Ils ont d'abord regardé les oiseaux, puis ils ont essayé de les imiter.
Oui.
Alors, ils n'y sont pas arrivés. Et qu'est-ce qui fait que, en 2000, René Feijan dit, tiens, mais moi, j'ai trouvé la solution que n'ont pas trouvé avant moi, Adair, Léonard de Vinci, Icare et compagnie.
Ils se sont tous plantés parce qu'ils sont partis avec des matériaux que nous n'avions, qui étaient très très lourds à l'époque, qui étaient très pénalisants. Et en plus, sur le plan des capacités, bon, ils sont arrivés à une limite. Mais c'est curieux ce que vous dites parce que à chaque fois qu'un créateur crée quelque chose, On lui dit, mais comment se fait-il que ça n'a pas été fait antérieurement?
C'est normal.
Mais alors, c'est fait aujourd'hui parce qu'il fallait bien commencer. Mmh. Et actuellement, la bionique, puisqu'il s'agit de ça, qu'est-ce que la bionique? Eh bien, c'est une nouvelle science qui est relativement récente et qui consiste à adapter dans l'observation des phénomènes vivants, de la matière vivante ou de ce qui vit, qui est biologique, des mécanismes qu'on peut adapter à la technologie, y compris aéronautique, de très haut niveau ou à l'électronique. Ainsi, par exemple, le velcro, c'est une invention bionique.
Oui, c'était les cheveux des.
Et alors, ça remet en question des quantités de choses. Et Léonard de Vinci disait, l'idéal, c'est de mimer la nature, de la copier. Et puis, il a fini par dire, il est venu à un constat d'échec en disant, eh bien, c'est impossible d'approcher ce modèle. Il est tellement parfait que nous n'y arriverons jamais. Alors, il est parti d'un vol articulé et finalement, il s'est penché sur ce qu'on appelle le vol plané qui présente beaucoup moins de problèmes. Parce que le maintien sur trajectoire, eh bien, ça dépend pas uniquement des thermiques ou du vent dynamique.
Bien, mais de toute façon, le vol plané, ça n'est que la suite du vol mécanique, enfin, ou du vol en mouvement, parce que pour atteindre un point à partir duquel on pourra se mettre en vol plané, il faut s'élever. Et cette élévation, elle ne peut se produire que par des moyens. On voit bien, les oiseaux, ils commencent pas à planer au moment où ils quittent le sol. Ils battent des ailes d'abord, puis au moment où ils atteignent une certaine altitude, et à ce moment-là, ils peuvent planer et profiter des turbulences, des thermiques et des vents pour s'élever. Mais au début, il y a toujours un mouvement dynamique venant de l'être volant.
Ces aéronefs très légers ne peuvent décoller qu'environ entre 15 et 20 km heure. Ça signifie qu'il ne faut pas courir pendant 20 km heure à 20 km heure. Ça signifie qu'ils font un vent à peu près de 15 à 20. Donc, et là, vous,
vitesse relative,
vous décollez même sur place pratiquement.
Oui, c'est. J'en fais une parapente au jet à côté de Morzine.
Oui.
On court 2 minutes et puis ça y est.
Vous courez 2 minutes?
Oh oui, à peine.
C'est un cerf-volant que vous avez alors.
Non, mais.
C'est 10 secondes.
Non.
Franchement, je dis 2 minutes, mais j'ai l'impression de ne pas courir. Quoi.
Mais non, mais on peut, si vous avez un vent de 15 à 20, vous démarrez sur place.
Pratiquement. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est pratiquement tout de suite. Hein.
Mais oui. Ça, c'est sur une pente, c'est sur une éminence.
Oui.
Oui, voilà.
Or, vous, la direction dans laquelle vous êtes en train d'avancer, c'est quelqu'un qui aura, s'il a une prairie devant chez lui, à partir de cette prairie, il pourra décoller et voler réellement.
Oui, moi je pense que dans peu de temps, nous réussirons précisément à réaliser le rêve d'Icare. Bon, on en est très...
Pour l'instant, il faut toujours monter sur une
évidence. Attendez, on en est très proche. Et je vais vous dire pourquoi et sur quoi on se base pour dire ça. Je travaillais avec un ingénieur avec lequel j'ai eu des problèmes et nous sommes en procédure actuellement à mon instigation d'ailleurs. Lui... il était vraiment plein de certitudes.
Disons que c'est quelqu'un qui vous a piqué le brevet, quoi.
C'est
enfin,
ça.
Qu'a essayé de vous piquer.
C'est ça. Ouais. C'est qui tente actuellement de l'exploiter à ma place. Bon, il disait, en voyant cet hôtel sur le papier, avec les explications que je donnais, les croquis, il disait, mais c'est pas possible qu'une aile comme ça puisse voler, disait-il. Les bouts de plumes relevant, comme les oiseaux, ne tiendront jamais parce qu'ils sont suspendus à l'envers. L'invagination, c'est-à-dire la forme d'oiseau au milieu, quand la personne, le pilote, va tirer dessus, eh bien, ça va claquer.
Oui, parce qu'il faut expliquer, si vous permettez, René Féjean, que l'engin, enfin l'aile que vous avez imaginée, que vous avez dessinée, que vous avez fabriquée, elle reproduit, on peut dire très exactement, la silhouette archi connue de la mouette dans le ciel. Quand on fait un dessin d'enfant,
stylisé,
hein, voilà, on fait une espèce de double, je sais pas quoi, double courbe comme ça, un V, oui. C'est exactement ça que vous faites.
Hein, voilà. Alors c'était tellement incroyable que finalement j'ai passé un temps beaucoup plus important à le convaincre, lui qui était un ingénieur en aéronautique. Dans une grande entreprise française que je nommais pas. Et il était tellement plein de certitudes qu'il n'y avait pas moyen de lui faire entrer une hypothèse. Mais une fois qu'il a été convaincu, eh bien, il est parti avec mon paquet, en gros. Bon, ça prouve que j'étais efficace au niveau de la formulation. Et il recommence encore par voie de presse maintenant. Il dit, l'hypothèse de Féjean sur le vol battu, c'est un leurre, c'est une véritable utopie. Mais toutes les recherches sont utopiques avant qu'on les réalise.
Ben voilà, oui.
Alors, ce qu'il faudrait quand même dire, c'est avant qu'il se prononce avec des jugements à l'emporte-pièce qui sont inconséquents pour un scientifique, qu'il n'est pas d'ailleurs, parce qu'un scientifique a beaucoup plus de réserves, et il est très relatif, il n'est pas absolu, déjà en plus, il aurait dû dire, mais sur quoi tu t'appuies pour penser pouvoir réaliser ça? Alors moi, j'ai observé des phénomènes en vol avec la bionique qui sont vraiment étonnants. C'est-à-dire, quand on pilote, nos auditeurs ne peuvent pas nous voir, je peux pas faire de gestes, mais on tire sur les commandes arrière, comme sur les rabatons d'ailes, vous savez, à l'arrière, sur un avion. C'est-à-dire qu'on les cabre avec la vitesse.
Comme les aérofreins.
Eh bien, on monte. Alors, avec une voile classique, quand on tire ces commandes, vous l'avez perçu vous-même, on a tendance à monter. L'ennui, c'est qu'on accuse d'une traînée. C'est-à-dire, comme elle est inclinée, la voile, elle avance difficilement dans l'air.
Oui, elle monte,
et elle paye sa dette de vitesse en replongeant à l'avant pour reprendre de la vitesse.
Ouais.
Ça, c'est le comportement habituel d'une voile. La bionique, elle a un phénomène très particulier. Sa vitesse nominale est déjà en record parce qu'on va à 64 alors que les autres sont en dessous 50 ou 50-54. C'est quand même énorme. Mais en plus, on se sert pas de l'accélérateur. Donc, elle a une vitesse qui lui permet, quand on monte, par exemple, sur une ressource, on monte. Et quand on relève les mains, la vitesse de reprise de vitesse est tellement instantanée qu'on évite la plongée initiale. Alors, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, simplement, alors que les ailes plongent pour reprendre la vitesse, la voile la bionique se comporte, se vole en palier.
Oui,
ça veut dire qu'en prenant comme ça, on a tendance à faire ça. Donc, on est très près du vol battu. Maintenant, j'ai un invariant actuellement encore, que la bionique, c'est une technologie biomimétique et surtout une géométrie variable.
Biomimétique, ça veut dire qu'il imite la vie.
Complètement l'oiseau dans tous ses compartiments d'ailleurs. Vraiment dans tous ces compartiments.
Pas l'alimentation quand même, vous n'en êtes pas à manger des graines.
J'étais en train de me poser la question.
S'il faut se nourrir avec du mouron, je suis plus d'accord.
Il y a du mouron à se faire.
Non mais nous, j'ai approché très très près plutôt ce modèle théorique qui est parfait, qui est la fin d'une évolution dans ce qu'on appelle le vol lent, et qui est l'oiseau comme l'aigle ou le, par exemple, ou le goéland ou beaucoup d'autres.
Oui, oui.
Mais je vais encore beaucoup plus loin. Actuellement, il y a les oiseaux de bord de mer, si vous les avez remarqués, ont des ailes très effilées. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont taillés pour voler dans les dynamiques. Par contre, les aigles ont des ailes qui, avec des ramilles, en forme de doigts, et c'est véritablement palpeur, ce qui permet de diviser la traînée en bout d'ailes. Donc ils sont magnifiquement bien équipés pour avoir un niveau de performance. Et la finesse d'un aigle, c'est de 15. Ça veut dire que si vous avez 100 mètres de hauteur, l'aigle, sans bouger les ailes étendues, sans rien bouger, si on est à 100 mètres, une finesse de 15, lui, va faire 1,5 km.
Ah là là. À partir d'une hauteur,
ce qu'on appelle une finesse 15. Alors nous sommes actuellement dans les parapentes classiques à une finesse qui tourne autour de 9, entre 9 et 10.
C'est-à-dire, si vous êtes à 100 mètres, vous atterrissez à 900 mètres. Ou 1 km.
Non, si vous êtes à 100 mètres, vous avez une distance d'un kilomètre fini.
C'est ça.
Vous avez une finesse de 15. Mmh. Ce qui est énorme. Alors, je me permets d'essayer de pas copier la nature, parce que copier la nature, s'en inspirer, c'est parfait. Léonard de Vinci a donné l'exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de la passer. Et en me disant, mais comment puis-je inventer des mécanismes pour pouvoir passer ce modèle qui est l'aigle? Et je pense qu'on y arrivera. Maintenant, il y a un problème. Là, je fais appel à tous nos auditeurs. S'il existe des ingénieurs qui sont susceptibles de m'aider, eh bien, je les appelle de tous mes voeux, parce que je suis tout seul sur ce secteur. Et c'est un secteur qui a une promesse d'avenir considérable. Et c'est un peu frustrant de voir qu'on ne peut pas partager ces découvertes avec d'autres sans courir le risque de se faire spolier ou piller. Alors, je me dis, en volant, j'ai donc un invariant relatif qui est l'envergure de la voile, c'est-à-dire sa grandeur.
Un invariant relatif, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger.
C'est la longueur de la voile. Encore que dans la bionique, elle est modulable, mais en général. On a ça. On a un deuxième invariant, c'est le poids du corps, du pilote. Il ne peut pas changer de poids pendant son vol. Ce n'est pas possible. Pour assurer un vol battu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je peux me baser sur la force de mes bras, encore que, quand on va l'utiliser, elle est très très relative, ça présente pas une force considérable, et ça, on pourrait manœuvrer comme ça pendant des heures sans se fatiguer, c'est pour vous dire que c'est parfaitement compatible. Et il va falloir que je prélève une source supplémentaire de l'énergie. Et c'est là où il y a le côté génial. Je me dis, j'ai une énergie potentielle autour de moi qui est l'air. Comment puis-je l'utiliser? Je n'ai pas de moteur, j'ai rien du tout. Eh bien, je l'utilise avec un mécanisme que j'ai adapté à la bionique et que les oiseaux n'ont pas. C'est l'ouverture des bords de fuite, sur le bord de fuite. C'est, vous voyez le bord d'attaque, c'est l'entrée de l'aile de face. Le bord de fuite, pour que nos auditeurs comprennent, c'est l'arrière de l'aile. Toutes les ailes actuellement classiques sont fermées. C'est un sac. La pression positive à l'intérieur de l'aile est extrêmement, pas beaucoup plus forte que la pression extérieure. Vous me suivez?
Oui, très bien. Quand on a... C'est un pneu qui est très peu gonflé.
Très peu gonflé, mais ça permet de maintenir l'aile en forme. Et il existe ce qu'on appelle une nouvelle conception que j'ai appelée la traînée de reflux, qui n'est même pas envisagée pour les ingénieurs actuellement, mais qui existe, et tous les calculs sont faits sur le profil exact de l'aile. Cette traînée de reflux, reflux devant, et s'oppose à la pénétration de l'aile dans un fuite, dans l'air. Donc, en partant de ça, je me suis dit, je vais ouvrir le bord de fuite derrière, ce qui permettra une circulation d'air. En plus, je me sers de la loi de Venturi, c'est-à-dire, c'est une accélération des flux d'air sur un espace qui se rétrécit. Comme vous pensez un tuyau, par exemple, vous pensez, ça va beaucoup plus loin. Donc, vous pouvez faire ça avec un tuyau plus naturel.
C'est le système du turbo, en fait. C'est une espèce de...
Oui, alors, le côté génial de cette affaire, excusez-moi de qualifier ça génial, parce que...
Mais si vous attendez que les autres le fassent,
ça va... Oui, non,
il faudra un titre posthume peut-être, donc dites-le vous-même tout de suite.
Oui, puis bon, je suis excusable, même le bon Dieu fait sonner les cloches pour lui.
Voilà.
Bon, alors en ouvrant derrière, j'ai toujours ma pression positive parce que je suis en cône, vous me suivez? Mais l'avantage considérable, c'est que j'ai 15 km/h en plus de vitesse environ sur trajectoire. Et comme la portance varie au carré de la vitesse, c'est une formule aéronautique, j'ai un gain supplémentaire extraordinaire.
Mais c'est toujours le carré de la vitesse, c'est curieux.
Oui. Alors en plus, c'est comme ça, hein, c'est une constatation. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le flux laminaire qui part au bord de fuite, vous savez, ça fait un flux laminaire, puisque on est ouvert sur un demi centimètre à peu près. Eh bien, fait extraordinaire, a permis de résoudre un problème qui était insoluble jusqu'à présent, qui est le recollement des flux d'air sur l'intrados et l'extrados, c'est-à-dire sur la côté supérieur, côté supérieur de l'aile et le côté inférieur. Il y a des perturbations qui perturbent et qui empêchent l'aile de voler correctement sur tous les profils qui existent. Il y a des profils NACA qui ont été faits aux États-Unis, des milliers de profils, ils sont tous affligés de ce genre de problème. En faisant une ouverture comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On recolle les flux d'air par aspiration.
C'est ça. On suit le mouvement, en fait.
Ou autrement dit, par cette innovation, lorsque j'ai essayé ça sur les pentes du Vexin, eh bien, il y avait 3-4 types à côté. Il me dit, il va se tuer. J'avais pas de pilote d'essai. Il va bien fallu que j'essaye. C'était simplement une intuition initiale qu'il fallait vérifier. Et le fait est, c'est que j'avais une vieille aile qui s'appelait une Gamma, une aile compétition, mais ancienne, qui était poreuse, c'est-à-dire qu'il fallait laisser filtrer l'air. Enfin, un monument historique, mais vraiment une tôle. Eh bien, je n'avais plus de porosité, tout simplement, parce que j'avais une circulation d'air. Et là, ma voile avait repris une vivacité de pilotage qui m'a stupéfié. D'où cette adaptation ultérieurement à la bionique.
Je vais revenir à la question du début. Je vous demanderai de répondre brièvement. Comment expliquez-vous que une évidence... Enfin, quand vous l'expliquez, ça paraît totalement évident. Et comment expliquez-vous qu'une évidence aussi aveuglante n'ait pas été étudiée par les fabricants d'ailes avant vous? C'est-à-dire que personne ne s'est dit, tiens, si on faisait une ouverture à l'arrière, sur le bord de fuite de l'aile, on obtiendrait un flux d'air qui...
Serge, ça vient uniquement de la nature et du psychisme de l'inventeur ou du créateur. Et je n'ai pas abordé un sujet ici parce que nous en aurons pas le temps, mais il y a une magnifique émission à faire sur la recherche pour voir comment fonctionne un chercheur, parce qu'il y a une typologie que j'ai mis au point encore une fois, qui est une typologie quaternaire, et quand on parle à un chercheur, on le recrute sur titre, et non pas sur ses qualités heuristiques. Et il n'y a pas de liaison entre le bagage universitaire et la capacité de création. C'est flagrant. Donc, et plus grave, le cursus universitaire, non seulement ne favorise pas la recherche, mais détruit la créativité. Mais c'est une émission qui serait extrêmement intéressante parce non, que ça,
Il faut pas faire d'études, je suis pour.
Écoute, chacun pourra alors s'identifier dans un type de chercheur. Et au niveau du recrutement, le type 1, par exemple, qui est le type qui est lié à l'intuition, c'est-à-dire il trouve quelque chose et c'est secondairement qu'il essaye de comprendre comment il est arrivé à ce résultat. C'est un mode de fonctionnement mental. Il obéit par des lois de synthèse et il est très très intuitif. Mais il est ininsérable sur le plan social. Il a un fonctionnement mental qui est tellement bizarre et anarchique qu'on ne peut pas l'insérer dans une équipe.
Ben oui, c'est des gens comme Petit, comme Benveniste, comme des gens...
Exactement.
Ben, mais ça, on pourra faire un truc. D'être venu ce soir. Alors, il y a des questions
Un auditeur nous dit « Je fais du parapente à Persan-Beaumont dans le Val d'Oise, Chantilly, où il y a une école. J'ai réussi, en partant du sol, à rester en l'air 3 heures et j'ai atterri à Vierzon. Il est donc inutile d'aller dans les Pyrénées.
Oh. » Alors, je répondrai à cet auditeur une chose, c'est que un petit peu de réaction narcissique. Les personnes qui font du soaring en général sont meilleures que ceux qui volent en montagne parce qu'ils ont du gaz. Ils peuvent se permettre de faire des erreurs. Ouais. C'est pas un problème.
Ils ont du gaz, c'est-à-dire ils ont de la marge en dessous.
Ils ont de l'altitude. Par contre, nous, on vole au-dessus à ras des arbres. Ouais. Et il y en a qui restent dedans. Passe pas qu'à travers, il y en a qui restent dedans.
C'est le retour aux sources.
Et si on commet une erreur ou si un film saute, on se retrouve dans l'arbre. Alors, je voudrais revenir aussi sur quelque chose. Toute l'aéronautique actuellement, elle est basée sur le... On dit, pourquoi une aile vole ? Eh bien, parce qu'elle a un profil. Ce profil, et c'est la loi de Bernoulli, on dit, c'est la loi de tiers un tiers. Ça veut dire que les molécules d'air, quand ils sont accélérés, ont moins de pression sur la partie supérieure de l'aile. Mm-hmm. Donc, par conséquent, s'il y a moins de pression sur la partie supérieure, ça monte, d'autant plus qu'il y a une pression interne. Mm-hmm. Alors, toute l'aéronautique mondiale est basée là-dessus. Et je me suis aperçu que cette loi, la loi de Bernoulli sur laquelle on travaille tous, est une loi manifestement fausse. Vous voyez qu'il existe même dans la science la plus absolue des erreurs magistrales. En fait, c'est pas la loi de Bernoulli qui intervient, mais c'est la loi de Newton, et il faut lui rendre hommage, c'est la loi d'action-réaction. C'est-à-dire que sur un profil avec une incidence, pour que nos auditeurs comprennent, c'est une voile qui est cabrée vers le haut, pour que... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour qu'elle puisse se maintenir dans cette position-là, ce n'est pas la succion des deux tiers sur la partie supérieure qui va la faire monter. Non, c'est la loi réaction, c'est-à-dire la convergence du flux d'air, l'air relatif, qui va interagir sur la voile et qui va monter. Si vous prenez un galet et vous le faites aller sur l'eau, tant qu'il y aura, s'il a une trajectoire, il a une poussée, il se maintiendra sur l'eau constamment comme ça. Donc, encore une fois... Tous nos ingénieurs se plantent et je révise constamment, je revisite ce qu'on appelle la science aéronautique pour la remettre à plat parce que ça relève de la religion dans beaucoup de ses principes.
Merci René Fajard. Alors, vous avez lancé un appel, il faut que vous nous disiez où on peut vous dire.
Alors, je voudrais aussi vous faire remarquer que... Au bout d'un certain temps, la technologie bionique est tombée un petit peu en désuétude au profit des aéronefs, parce que les aéronefs avaient un moteur, et que les moteurs sont des correcteurs d'erreurs. C'est-à-dire que même l'engin, s'il est imparfait, avec une poussée, on vole tout le temps. Et que maintenant, paradoxalement, les États-Unis, Aircraft, et puis les modélisations à la NASA... Ne voit, regardez le titre, hein, les avions battront des ailes. C'est-à-dire, bordés d'électronique et conçus avec des matériaux à mémoire de forme, les voilures des avions pourraient, hein, dans un prochain avenir, se déformer et imiter le vol des oiseaux. Donc, le vol des oiseaux, ce modèle des oiseaux est tellement optimisé que toute la dernière technologie actuellement revient précisément aux découvertes initiales qui étaient faites par nos anciens, notamment Adler et puis beaucoup d'autres.
Quoi. Est-ce que les militaires s'intéressent à votre invention ?
Eh bien, c'est un... Alors, ce qui est paradoxal aussi, cocorico, pour une fois, à chaque fois qu'on parle des Américains et puis de leurs découvertes, quand je regarde les travaux qui sont faits sur les approches bioniques, elles sont archaïques, désuètes, et elles sont très en retard sur ce que nous faisons, même sur un modèle comme la bionique, là, qui va nous amener à une évolution qui va surprendre tout le monde. C'est une aventure considérable. Je peux donner des adresses ?
Oui, alors donnez-nous des adresses auxquelles on peut vous écrire ou des numéros de téléphone.
Alors j'invite tous nos auditeurs pour avoir plus d'informations sur la bionique. Il y a mon adresse et mon téléphone qui figurent. C'est d'aller sur le site, je répète, alors je dis plutôt, www.aero, tiré au milieu bionique.com. Je répète, www.aero-bionique.com.
Bionic, voilà. C'est B-I-O-N-C.
C'est la science,
bionic.
La science bionique, c'est Q-U-E, mais c'est le terme anglais. Alors, si ceux qui sont intéressés par le vol battu, ben, il existe un organisme qui s'appelle l'URVAM, qui existe à Paris. L'URVAM, U-R-V-A-M, et qui s'occupe du vol battu. Et il y a des pionniers de l'aviation, et ce sont des gens qui sont remarquables par leur connaissance, mais figés dans leur certitude. Bon. Et pour avoir des renseignements, vous téléphonez à Gérard Lesieux, L-E-S-I-E-U-X, au 01 39 14 66 05. Et puis alors
01 39 14 66 05.
Et maintenant, j'invite tous nos auditeurs, eh bien, à planer, se rendre compte des impressions. Et si vous voulez savoir pourquoi les oiseaux chantent, alors faites du parapente, vous allez le comprendre. Et alors, je vous donne l'adresse de décollage. Décollage, c'est à Saint-Clair-sur-Epte, c'est à 60 km de Paris. Et avec les premiers beaux jours, vous allez voir ces voiles multicolores consteller le ciel. C'est merveilleux à voir. Et nous vous invitons à y participer, bien évidemment. Le numéro de téléphone, c'est le 01 34 67 66 67. C'est la société de décollage à Saint-Clair-sur-Epte. Alors, je m'empresse de vous dire qu'ils font des baptêmes parapente, formation parapente, canoë sur l'Epte et des centres de loisirs. Voilà. Et puis, un numéro pour finir. La société, il existe une revue, très belle revue d'ailleurs, qui s'appelle Arial, et qui traite de ce sujet, mais qui a un peu vieilli. Mais l'analyse est magnifique, avec une très belle iconographie. C'est la revue Arial numéro 8. C'est un numéro spécial sur le vol battu. Eh bien, il me reste à vous remercier de votre attention.
Merci, René Feigenjean. Alors, on se reverra dans quelques temps pour un autre sujet. Je ne dévoile rien pour l'instant,
mais surprise.
Qui va mettre à contribution les auditeurs,
d'ailleurs. Tous nos auditeurs.
C'est revue Ariane ou Arial?
Arial.
R-I-A-L.
Voilà.
Merci beaucoup. Marquis, un mot?
Je viens de me souvenir que j'étais membre de l'association de l'Aéroclub de France. Voilà, je viens de me souvenir de ça. Je suis membre de l'Aéroclub de France.
Eh ben, mais l'association dont je vous parlais fait
partie de l'Aéroclub de France.
Il
serait temps que je me réveille.
Je signale l'apparition d'un livre de monsieur l'abbé Herry. Ce livre s'appelle Non-lieu sur un schisme. C'est un livre forcément très intéressant, et on peut le commander au prix de souscription de 17 €. Alors, l'adresse, c'est Monsieur l'abbé Herry, église Saint-Éloi, 1 rue Saint-Éloi, 33 000 Bordeaux. Et le thème de ce livre, c'est nos raisons contre le malaise, l'impatience et l'anxiété. Alors que les rumeurs s'amplifient sur la santé du pape, les catholiques fidèles à la tradition s'impatientent, la tension monte, la tension baisse. Par ce livre, Non-lieu sur un schisme, je vous propose de réagir à toutes les anxiétés, à toutes les impatiences, à tous les vertiges, en revenant sérieusement aux données fondamentales du combat pour la tradition catholique. C'est une synthèse claire et rigoureuse des arguments en défense que je vous présente. Monsieur l'abbé, ça s'appelle Non-lieu sur un schisme. 5 réponses au père Narcisse. Non-lieu sur un schisme. Adresse, Monsieur l'abbé Herry, église Saint-Éloi, 1 rue Saint-Éloi, 33 000 Bordeaux. Et puis je signale la parution du dernier numéro de Certitude, qui est exceptionnel, avec une interview, un entretien avec René Girard, qui est totalement enthousiasmant. Alors vraiment, si vous êtes intéressé par ces questions de philosophie religieuse, il faut acheter ce numéro de Certitude, qui est le numéro 16, qui est consacré pour une part à la question de la laïcité, mais à mon avis, ce qui est véritablement enthousiasmant, je répète le mot, c'est l'entretien avec René Girard, qui est un anthropologue français, qui a écrit un livre prodigieux qui s'appelle « Je vis Satan tombé comme l'éclair », et qui là poursuit sa réflexion sur le rôle du sacrifice dans la construction des sociétés humaines. Et c'est vraiment c'est un numéro d'intelligence prodigieux. Un entretien avec l'abbé de Tannouarn, c'est véritablement magnifique. Ne manquez pas ce dernier numéro de Certitude, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ceux qui s'intéressent aux questions que nous avons évoquées en début d'émission peuvent se procurer un livre très important, L'antisémitisme de Plume. Vous verrez qu'il faut quand même pas mal relativiser les choses. Ça a été publié par Pierre-André Taguieff, donc c'est parfaitement cachère. Et c'est, on peut se le procurer, 26 rue des Rigoles, aux éditions de l'Homme Libre.
Mais à la FNAC aussi.
Non, je crois qu'il n'y est plus.
Ah, moi je l'ai acheté à la FNAC.
Ah, mais il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Oui, oui, ah, mais là, maintenant, je crois qu'il n'en reste plus. Il en reste quelques exemplaires aux éditions de l'Homme Libre, 26 rue des Rigoles. Et des alors, Rigoles. Le prix, ben, je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai tout simplement pas, mais vous pouvez vous renseigner auprès de...
Rue des Rigoles, c'est dans le 20e.
20e, oui, c'est ça. Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe, notre émission mensuelle consacrée à l'actualité culturelle, politique, stratégique de la plus grande Europe. Donc comme d'habitude autour de cette table, Xavier Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lierde qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, journaliste également et rédacteur en chef de Relève Politique, et puis Patrick Péel, journaliste également. Donc une émission comme toujours en trois temps, un premier temps consacré à l'évocation de l'actualité la plus récente et la plus concrète sur le domaine géopolitique, une deuxième demi-heure qui sera consacrée à nos invités et une troisième demi-heure qui sera davantage centrée sur l'actualité culturelle. Alors, pour ces chroniques de la vieille Europe, nous avons du pain sur la planche ce soir puisque cette semaine est fertile en rendez-vous de toutes sortes sur la scène géopolitique mondiale et partant européenne puisque il n'aura échappé à personne que George W. Bush est en Europe. Il y passe 4 jours. On n'avait jamais vu ce président aussi pressé passer autant de temps. Et en l'espèce, c'est pour retrouver ses amis européens, dit-il. Et puis, il semble passer au moins plus de temps auprès de la vieille Europe que dans les jeunes pays de la nouvelle Europe dont parlait son acolyte Rumsfeld. Alors, on a vu à cette occasion un certain nombre de décisions, de commentaires. Notamment, peut-être le plus important, deux faits à retenir. Le premier, c'est ce qu'il sortira des entretiens de George Bush et de Vladimir Poutine qui se rencontrent à l'instant où nous parlons, donc ils ne nous écouteront pas malheureusement, mais qui se rencontrent à Bratislava en Slovaquie. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il s'est échangé autour du rôle de l'OTAN. Gerhard Schröder, le chancelier allemand, a ouvert le feu le premier en expliquant qu'il fallait redéfinir le contenu de l'OTAN, que l'OTAN ne pouvait pas être une alliance ou un lieu politique au sein duquel les Américains prendraient systématiquement ce qui leur plaît. Jacques Chirac a dégainé ensuite pour rappeler le rôle fondamental de l'OTAN, mais également appeler à redéfinir le rôle de l'OTAN. Et Bush, évidemment, lui, a insisté sur sa volonté de garder à l'OTAN le rôle qu'on lui a connu par le passé, mais aussi ce rôle de nouveau deus ex machina de la vie politique mondiale, puisque l'OTAN devrait demain intervenir dans la CEI, intervenir en Afghanistan, intervenir en Afrique, intervenir en Irak peut-être. Alors, est-ce que, Grégoire Gambier, c'est un sujet que nous avons souvent évoqué ici, le rôle que l'on est en droit d'attendre de l'OTAN? Est-ce que ces discussions font vraiment progresser les choses? Est-ce qu'on peut se féliciter de voir les chefs d'État de la vieille Europe et l'axe franco-allemand en Europe se saisir enfin de cette question? Est-ce qu'on peut imaginer que de cela va sortir quelque chose de positif pour une Europe puissante et indépendante, telle que nous l'appelons de nos voeux?
Vous avez tout dit, avec brio. Nous sommes en effet dans cette en ce moment même, dans ce premier grand sommet, en fait, informel États-Unis-Europe depuis la crise irakienne. Et ce à quoi nous assistons, c'est tout simplement, bien évidemment, avant tout un jeu de dupes, puisque chacun joue son rôle sans se faire tellement d'illusions sur les postures des uns et des autres. Et donc le premier jeu de dupes, c'est bien évidemment que la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, apparaît comme plus soudé que jamais à l'occasion de ces rencontres euro-atlantiques, comme les baptise George Bush. Et à contrario, George Bush apparaît comme le leader, en tout cas veut affirmer le leadership américain en Europe, comme partout dans le monde, hein, mais donc y compris en Europe, via l'OTAN. Donc chacun est un petit peu sur ses positions. On est dans le domaine du symbolique, puisqu'on est dans le domaine du diplomatique, hein, donc c'est pour ça que c'est difficile de tirer surtout tout de suite des conclusions ou des faits précis de ces rencontres, puisque la diplomatie c'est d'abord de la posture et du symbolique. Notons toutefois une première satisfaction. Enfin, je parlais de jeu de dupes pour commencer. On est totalement dans le jeu de dupes, puisque George Bush sur l'affaire irakienne par exemple, Bush peut s'estimer satisfait, puisque en effet le sommet de l'OTAN, qui est parallèle à l'ensemble de ces rencontres, a conclu à l'intervention des 25 ou 26 pays membres maintenant de l'Alliance dans la reconstruction irakienne. Donc tous les pays membres de l'OTAN participent donc au retour à la paix, à la sortie de crise irakienne, mais la plupart de façon très symbolique, puisque certains pays baltes se contentent en fait d'une mise de fonds de 15 000 euros. Et quant à la France, elle participe, comme vous le savez, à la formation des futurs policiers et gendarmes irakiens, mais à partir de Melun et d'une base au Qatar, avec un seul officier français dépêché sur place, et là encore, pas du tout en Irak. Donc à la fois les États-Unis et l'OTAN peuvent se satisfaire symboliquement de du fait que l'ensemble des pays membres de l'Alliance participent à la volonté américaine que tout le monde soit engagé dans cette crise. Et à contrario, quand on regarde les faits, eh bien chaque pays membre, et notamment l'Allemagne et la France, peuvent se satisfaire du fait que derrière les discours ou la volonté américaine un peu prégnante, eh bien chaque pays membre affirme sa propre autonomie et ne s'engage pas du tout dans le guépier irakien comme le souhaitaient de prime abord les conseillers de Bush.
Mais alors, au-delà de la posture et du symbole, il y a quand même des choses qui discrètement avancent, et je crois qu'il faut s'en féliciter. On a été les premiers, nous, je crois, et on revient souvent à observer de près cet axe Paris-Berlin-Moscou qui s'est d'abord construit en front du refus à l'ONU, mais qui derrière s'est densifié. Et puis, d'un mois à l'autre, entre deux émissions, on se rend compte que, ben, petit à petit, les partenaires continuent à renforcer leur lien. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, de voir que l'Europe, l'Union européenne, les institutions européennes n'ont jamais été aussi désagréables avec la Russie, on l'a bien vu dans le rôle qu'elles ont joué dans l'affaire ukrainienne, et paradoxalement à ça, la France et l'Allemagne continuent de pousser les pions d'une, non pas une alliance, mais d'une coopération renforcée franco-russe. C'est ce qui s'est passé le 21 janvier dernier avec la visite de Michel Alliomari et de Michel Barnier, donc les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, en Russie pour renforcer les coopérations militaires dans le domaine spatial et également dans le domaine spatial civil, ainsi que sur le plan nucléaire. C'est ce qui s'est passé lorsque Michel Barnier a entrepris une tournée d'explications dans les pays baltes des différents raidissements russes pour essayer d'expliquer, de calmer les pays baltes qui sont dans une relation sincèrement anti-russe, et on peut le comprendre avec ce qu'ils ont connu à l'époque stalinienne, mais qui laisse volontairement les Atlantistes de tout poil souffler sur ces braises-là. On a également l'Allemagne qui, cette fois-ci, l'Allemagne c'est moins militaire, c'est plus civil, mais qui vient de nouer des coopérations dans le domaine énergétique, dans l'électricité notamment, la semaine dernière avec le géant russe du secteur. Et puis l'Allemagne qui déclare à l'occasion de ce sommet de l'OTAN, eh bien oui, l'Allemagne a été pendant 45 ans un pays qui était client de sécurité. Aujourd'hui, l'Allemagne est un fournisseur de sécurité et elle a son mot à dire et elle ne veut plus être à leur remorque de l'OTAN comme elle l'a été par le passé. Donc derrière la posture, il y a quand même une politique des petits pas qui s'exerce. Il faut remarquer, n'en déplaise aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont toujours un peu chatouilleux sur le sujet, n'en déplaise à cela, mais la déclaration d'hier de Jacques Chirac, qui va dans le sens d'une redéfinition des contours de l'OTAN, et pourtant est en cohérence avec cet axe que nous appelons de nos voeux, et ce ne sera pas le moindre des paradoxes que malgré tout en France, celui qui pousse le plus pour l'intégration de la Turquie en Europe, qui est ce fer de lance de l'OTAN, c'est aussi Jacques Chirac, mais c'est pas sur Radio Courtoisie qu'on essaiera d'expliquer les méandres de la pensée chiracienne, si tant est qu'elle existe. Alors, toujours pour parler peut-être d'Europe et se concentrer, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Mais
oui, simplement peut-être parce que quand je parlais de symbolique, c'était pas du tout pour déprécier les enjeux en cause, bien au contraire, hein, puisque on se rend bien compte à chaque fois que la crise irakienne, l'agression américaine contre l'Irak, hein, pour employer les termes réels
de ce qui s'est passé. Chechnie et la guerre en Irak.
Voilà, la guerre en Irak a provoqué, comme Pierre Lelouch le déplorait encore il y a peu dans Le Monde, une vraie crise, une vraie fêlure dans cette alliance euro-atlantique que Bush et les atlantistes de tout poil voudraient voir éternelle et construite encore pour 1000 ans malgré la fin de la guerre froide. Donc une fêlure au sein de cette alliance et surtout deux visions du monde et de l'Europe qui s'affrontent avec d'une part donc les États-Unis et leurs alliés clients qui voudraient voir là en gros la démocratie de marché et la religion des droits de l'homme s'étendre partout de la Mésopotamie au Chiapas en passant bien sûr par Varsovie et Barcelone. Bon, très bien. Donc ça c'est une vision, c'est un projet et je vous rappelle que quand même George Bush, son discours d'investiture au Congrès très 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 centré là-dessus, donc sur la liberté humaine qui était la vraie valeur du 21e siècle et celle pour laquelle dernière valeur pour laquelle d'ailleurs ça valait la peine de faire la guerre et de mourir. Bon, donc ça c'est une certaine vision du monde et des rapports et du coup des rapports de force entre nations ou entre grandes sphères géopolitiques. Et de l'autre, il y a, et vous faites bien de le souligner, même si ce n'est pas toujours dit de façon très perceptible, le couple franco-allemand d'une part et la Russie d'autre part, puisque en fait il faut, je pense, raisonner plutôt sur ce binôme d'un côté et l'Empire russe de l'autre, qui prône une vision plus réaliste, plus traditionnelle d'ailleurs des relations internationales. Et simplement dans ce couple franco-allemand, la France, donc vous faites bien de dire que ce serait difficile d'ausculter, sauf avec une dizaine de psychanalystes, la pensée féconde du président Chirac, mais en tout cas pour l'Allemagne, cette crise a été un révélateur. De d'une identité et d'une fierté retrouvée, en fait, puisque vous parliez de la Turquie à l'instant, c'est quand même à l'occasion de cette crise irakienne que la CDU, par exemple, a décidé de s'opposer à l'arrivée de la Turquie au sein de l'Union européenne, CDU client américain historique, et ça va de pair, bien évidemment, avec toute une résurgence de l'identité allemande, d'une fierté retrouvée, légitime, que nous avons eu l'occasion d'évoquer longuement déjà dans des émissions des chroniques de la vieille Europe.
Et qu'on a vu ressurgir d'ailleurs au moment des commémorations, puisque l'année est riche en commémorations d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, et on a vu les Allemands réagir positivement au souvenir de Dresde, même si et je parle indépendamment des mouvements extrémistes qui en ont fait une occasion de démonstration de force, mais le collectif national s'est rappelé que lui aussi il avait subi la guerre et qu'il avait été victime, et je pense que tout ça avance de la même vitesse.
Oui, simplement pour finir là-dessus, effectivement vous parlez de Dresde pour pas rester sur une commémoration historique, pour finir sur l'opposition bien sûr purement symbolique une fois de plus entre États-Unis et clients d'une part et le couple franco-allemand et la Russie d'autre part, c'est aussi qu'il y a du côté américain la volonté de ne rien changer aux relations entre les États-Unis et l'Europe et donc à la constitution de l'OTAN. puisque c'était bien l'enjeu, l'enjeu de cette semaine, d'une part, et de l'autre, la France et l'Allemagne, qui veulent prendre en compte la nouvelle donne géostratégique, quand même, issue de la fin de la guerre froide, il est temps, mais aussi de l'entrée dans le 21e siècle et des conflits identitaires qui marquent cette entrée dans le siècle, et donc rebattre les cartes, et y compris au profit de nouvelles puissances. Donc c'est là aussi, une fois de plus, quand même deux visions qui s'affrontent.
Patrick Péel, un éclairage aussi de votre part sur ce sujet.
Oui, moi je vais rester surtout dans les symboles. Ce qui est intéressant dans ces quatre jours de M. Bush, c'est que déjà la parole franco-allemande a été allemande et française. C'est-à-dire que, et je pense que ça a été voulu, sur la réforme de l'OTAN, c'est pas la France qui a parlé en premier, c'est l'Allemagne. Schröder l'avait déjà fait en premier, et ensuite ils ont attendu que Bush arrive en Europe pour lui expliquer que l'Europe avait quelque chose à dire sur l'OTAN.
Ouais, c'est bien évidemment volontaire, indépendamment de, effectivement, c'est volontaire puisque l'Allemagne, enfin donc l'ex-RFA était un pilier
porte-avions américain,
oui, tout à fait, de l'OTAN, alors que la France, on le sait bien, parce notamment via le gaullisme, a toujours été un petit peu en réticente ou en marge de l'alliance, et donc c'était beaucoup plus fort vis-à-vis des Américains que ce soit le chancelier allemand qui porte le fer.
Ouais. Et le deuxième symbole, je dirais, c'est que premièrement, les Américains ont parlé pour la première fois de l'Europe, n'ont pas parlé à des pays. Alors, sur les différents pays européens, il y a des choses assez intéressantes. Je trouve que les Anglais ont été, par pragmatisme américain, mais ça on le savait, ont été humiliés par les Américains pendant ces quatre jours, parce que Bush est venu pour discuter avec les Français, parce qu'il sait, faut quand même se rendre compte qu'il a quand même un ennemi en ce moment, c'est l'Iran, et il sait très bien que s'il veut passer en Iran, passer devant sur les Allemands et les Français, alors que les Anglais, bah eux, ils ont plus strictement rien à dire, donc on ne discute plus avec les Anglais, on les laisse. Je crois qu'il a fait un déjeuner, quelque chose comme ça. Et alors l'Espagne, c'est encore pire. Les journaux espagnols ont calculé le temps que Monsieur Bush a passé avec le Premier ministre espagnol, 7 secondes. Ils se sont dit bonjour, ils se sont dit au revoir. Ce qui inquiète beaucoup les journaux américains, parce que l'humiliation de l'Espagne à ce niveau diplomatique...
Et l'Espagne est chatouilleuse.
L'Espagne est chatouilleuse, et le monde hispanique aux États-Unis aussi.
Oui. Et il ne faudra pas compter sur les Portugais de l'ex-Monsieur Barroso, puisque la famille politique de Barroso vient de perdre les élections.
Mais oui, c'est partie des...
Alors, vous avez vu, puisqu'on parle de petits pays, un qui a rejoint la vision, discrètement rejoint la vision française et allemande, c'est la Hongrie. Le président hongrois qui appuie, alors à la mesure de ses moyens, les différentes tentatives franco-germaniques, ce qui est assez intéressant, on pourra faire tous les clins d'œil qu'on veut. Est-ce que la Hongrie se rappelle du vieil héritage germanique et autrichien? Est-ce qu'il y a un vieil atavisme magyar qui fait que le magyar ne se reconnaît pas dans la nouvelle allégeance des Slaves aux grands frères américains? On va pas disserter là-dessus. Puisqu'on parle de petits pays, il y a quand même deux événements à souligner. Il s'est passé des choses au Danemark et il se passe des choses en Flandre. Le Danemark, Grégoire Gambier, vous avez des éléments là-dessus, je crois.
Oui, des élections récentes, bien sûr, qui ont vu, qui ont confirmé donc l'ancrage des partis de droite au Danemark, et notamment du parti du peuple danois. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est le même pays qui vient de durcir, avec la Grande-Bretagne il est vrai, mais les Danois viennent de durcir leur législation contre donc l'immigration clandestine, et la Grande-Bretagne s'apprête à le faire, donc Tony Blair, pour des raisons électorales un peu évidentes, mais pas uniquement. On peut aussi prendre acte de ce pragmatisme britannique qui veut que quand trop c'est trop, quand il n'y a plus de contrôle de l'immigration, c'est bien la société tout entière qui en souffre. Il n'y aura bientôt plus qu'en France, en tout cas, que les gouvernants ne semblent pas s'en préoccuper. Quoique, vous avez dû remarquer toute une campagne de presse orchestrée par des études ou des notes des RG qui, bizarrement, sont publiées dans Le Monde, dans Le Point, qui vont toutes dans le même sens, et qui sont sans doute commandités par le ministère de l'Intérieur, et donc pour sans doute essayer d'expliquer, préparer l'opinion à un certain durcissement de la législation française à l'égard de l'immigration, mais on sera très loin quand même des lois danoises et bientôt britanniques.
Avec une page dans le Figaro d'aujourd'hui sur les Mureaux se refusent à la polygamie,
oui.
Mais ça va
c'est
faire.
Souvent lié. C'est souvent lié où on apprend que dans une cité des Mureaux, il y a 80 familles qui totalisent 1000 personnes.
Oui, hein, donc mais ce sont des familles au sens très tribal, tribal du terme.
Et, c'est... et donc où on dit que les enfants sont dans la rue parce que les familles eh bien, ont la mentalité de l'éducation de l'enfant par le village.
Oui, mais on le savait déjà quand il y a eu le... Souvenez-vous, la politique audacieuse menée par la municipalité d'Orléans après 2001 et qui donc justement avait été confrontée à cette problématique sur le couvre-feu des mineurs, effectivement, qui... Et
c'est votre ami Florent Montillo qui avait monté ça.
Oui, tout à fait. Bon, oui, un ami, mais le vôtre aussi, je crois.
Alors, on parlait également de la Flandre. Alors, il se passe des choses en Flandre. Donc, la Flandre, c'est la partie émergée de la Belgique. Pour nos auditeurs, il se passe des choses intéressantes puisque donc ceux qui suivent la scène politique flamande auront vu que le Vlaams Blok a été contraint par la loi belge de changer de nom. Il s'appelle désormais le Vlaams Belang, qui veut dire flamand ensemble, je crois, mais je suis pas sûr de ma traduction. Des auditeurs nous corrigeront certainement. Et l'intérêt de cela, c'est que la pression anti-Vlaams Blok et donc anti-Vlaams Belang est montée à un tel point que les principaux représentants et députés des partis libéraux et de droite commencent à comprendre que, eh bien, ma foi, la politique du cordon sanitaire a ses limites et donc les édifices libéraux se fissurent. Donc, que ce soit le parti du VLD ou le parti, du CDV, alors me demandez pas ce que ça veut dire en flamand, je pense qu'à chaque fois le V veut dire Vlaams, ont l'un comme l'autre des figures importantes qui ont rompu avec leur parti en disant qu'il fallait désormais briser le cordon sanitaire pour s'allier avec le Vlaams Blok. Le plus frappant d'entre eux, c'est le député Hugo Coveliers, qui a annoncé publiquement qu'il se verrait bien bourgmestre d'Anvers en collaboration avec le Vlaams Belang. C'est à Anvers, on le sait, que la figure de proue du Vlaams Belang est Philippe de Winter. Et donc, c'est à Anvers que les sondages, d'ailleurs, sont les plus enthousiasmants concernant la présence du Vlaams Belang majoritaire dans cette ville. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a une espèce d'hystérie en ce moment en Belgique contre nos voisins du Vlaams Belang, même à tel point que le prince Philippe, qui est le prince héritier du trône, s'est fendu d'une tribune dans laquelle il a vitupéré les électeurs flamands, manquant à ce titre au devoir de réserve royale, et même le premier ministre Verhofstadt a été obligé de rappeler son Altesse ridicule le prince à l'ordre. Donc voilà, il se passe des choses chez nos amis, ouais. Espérons que les prochaines élections traduiront ça concrètement.
En l'espèce, la monarchie belge. C'est vrai que le seul fait de prononcer
oui, ces deux termes,
c'est ridicule. Et sent bien que c'est tout simplement sa survie qu'elle est en train de jouer, puisque si la Flandre, comme nous sommes un certain nombre à le souhaiter, retrouve une marge de souveraineté, en tout cas qui correspondant à son identité particulière, toute la construction artificielle et post-jacobine de la Belgique qui s'effondre, et donc ces monarques de paille par la même occasion. Soulignons, mais ça confirme plutôt votre analyse, Philippe Christel, la schizophrénie qui s'est emparée de la classe politique belge, puisque dans le même temps où effectivement certains responsables politiques analysaient la situation en disant qu'il fallait cesser la politique du cordon sanitaire, d'autres députés des mêmes partis bien souvent déposaient des projets de loi, et donc ont déposé des projets de loi. Je ne sais pas où ça en est maintenant dans les discussions, dans le circuit parlementaire belge, qui doit être particulièrement opaque, pour demander que les candidats aux élections prêtent serment sur la constitution belge. Alors déjà en plus, soit, alors que théoriquement ce ne sont que les ministres, bon, pourquoi pas, mais aussi sur la déclaration européenne des droits de l'homme, sur la totalité, en gros, des tables de la loi, de la religion des droits de l'homme, donc avant même de pouvoir se présenter à des élections cantonales ou municipales au fin fond de la Flandre. Enfin, on atteint le gros, mais c'est symptomatique effectivement de graves crises existentielles en fait qui traversent ce pays.
Alors une anecdote, puisqu'on a parlé brièvement de l'Angleterre pour en dire du mal, donc on va en dire un petit peu de bien.
Oui.
Une anecdote qui montre quand même que les règles européennes, y a ceux qui les respectent et à qui on les impose comme les entreprises françaises, puis il y a ceux qui les respectent pas. Donc vous savez qu'en ce moment London Stock Exchange, qui est l'organisme qui gère la bourse de Londres, est en train d'être racheté par deux concurrents qui sont soit la Deutsche Börse de Francfort, soit Euronext, qui est le marché global basé à Paris, des bourses portugaises, françaises, hollandaises et luxembourgeoises. Et donc, le Euronext, comme la Deutsche Börse, ont transmis des offres au London Stock Exchange, et donc il est logique que l'autorité britannique de la concurrence, devant une telle fusion, transmette les offres à aux directions anti-concurrence de Bruxelles. Et bien donc l'organisme anglais qui s'appelle OFT, l'Office of Fair Trade, a déclaré: l'OFT considère qu'il est important de conserver une juridiction britannique sur les deux offres pour un certain nombre de raisons, notamment parce que le London Stock Exchange est basé en Grande-Bretagne, et donc nous ne transmettrons pas à la direction de la concurrence de Bruxelles l'offre de la Deutsche Börse ou de Euronext. C'est-à-dire que oui, il y aura certainement une position de concurrence qui sera dominante par celui des deux qui rachètera le LSI. Oui, c'est certainement ça contreviendra certainement aux règles de la concurrence, mais comme de toute façon c'est notre souveraineté, c'est notre bourse, et puis qu'on est anglais et qu'on est une île, ben vous l'aurez pas. Et donc c'est assez intéressant, puisque je rappelle que le commissaire européen au commerce extérieur actuel n'est autre que Peter Mandelson, qui était un des ministres phares du gouvernement Blair.
Bien, après cette grande envolée anglophile dont on se félicite, trois bonnes nouvelles peut-être pour la France depuis notre dernière émission des Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie. La première bonne nouvelle, c'est que d'une part, la France confirme donc sa place de troisième exportateur mondial d'armement. Donc après la Grande-Bretagne et bien sûr les États-Unis, mais c'est méritoire pour la France, donc qui reste devant la Russie et l'Allemagne avec 4,3 milliards d'euros en 2003 d'exportation d'armement, et l'Europe et l'Asie étant les premiers marchés français en matière d'exportation d'armement. Donc c'est quand même il y a une bonne nouvelle à la fois pour la France, pour son industrie et donc ses salariés, mais également pour l'Europe, bien sûr, dans le contexte actuel. Deuxième bonne nouvelle, rapidement, c'est que la France et la Libye relancent leur coopération stratégique et militaire. Donc ça, on ne peut que s'en féliciter, puisque dans la nouvelle donne géostratégique du bassin méditerranéen, ce n'est qu'un atout. Nous avons déjà parlé des propositions européennes qui avaient été faites de maintenir le flux d'immigrants clandestins plutôt sur le versant sud de la Méditerranée que dans nos quartiers. C'est une idée qui progresse, et là, bon, le renforcement de la coopération franco-libyenne est quand même aussi une façon de faire un pied de nez aux États-Unis. Troisième bonne nouvelle pour ce petit chapitre, bonne nouvelle, puisque
il en faut,
puis c'est un peu notre spécialité. C'est donc toujours pour la France, la création de l'agence de l'innovation industrielle, dotée de 2 milliards par l'État dès sa création, donc avec une vraie volonté, notamment d'appuyer la politique que tout le monde connaît bien ici de pôle de compétitivité, en essayant de lutter contre, pour que la France reste une puissance industrielle, puisque même si ça peut paraître un peu archaïque, nous sommes au cœur des enjeux du 21e siècle. Ce sont bien les industries d'innovation qui feront la puissance économique et donc politique de demain, et ça va de pair, bien évidemment, avec le lancement de l'A380, fleuron de l'industrie franco-européenne, s'il en est.
Voilà, et on notera d'ailleurs les principales réactions à la création de cette agence industrielle. La réaction la plus négative a été commise par Bernard Attali, le frère de l'autre, le chef d'orchestre, philosophe, pantin mitterrandien professionnel, qui nous a expliqué que non, là vraiment c'était brider le marché et que c'était terrible de faire ça et que vraiment c'était pas gentil, en oubliant de rappeler dans sa signature que Bernard Attali lui-même était le responsable pour la France d'un des plus grands fonds de pension américains.
Voilà, c'est QFD.
On va donc clore cette première demi-heure. Juste quelques petits messages rapides d'auditeurs. L'un qui nous rappelle, et on le remercie, que Vlaams Belang veut dire l'importance flamande. C'est vrai qu'on devrait connaître ça par cœur, puisque notre premier invité des Chroniques de la Vieille Europe était un député flamand au Parlement européen.
Oui, et nous avons eu un invité aussi, représentant du courant identitaire des Pays-Bas.
Des Flandres françaises, absolument.
Des Pays-Bas français,
Des Pays-Bas français, absolument. Et puis, donc quelques messages d'auditeurs qui nous remercient de cette émission très intéressante, en nous rappelant que, on s'est un peu mélangé les pinceaux dans les dates, c'est aujourd'hui que George Bush rencontrait Gerhard Schröder, et c'est demain qu'il rencontre rencontrera Vladimir Poutine à Bratislava. Nous sommes donc soulagés, ça veut dire que Vladimir Poutine a donc pu nous écouter.
Oui,
ce soir.
Mais nous étions simplement impatients en fait.
Et donc, je suggère à Vladimir Poutine et aux auditeurs de Radio Courtoisie de rester à l'écoute puisque nous allons entamer notre deuxième demi-heure autour de nos invités sur un sujet qui passionnera le président russe. Bien, nous nous retrouvons pour ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, deuxième demi-heure consacrée à nos invités puisqu'ils sont deux, Olivier Champagnac, vous êtes consultant, et Franck Duplessis, vous êtes étudiant, et vous revenez tous les deux d'Ukraine. Et alors, nous avons souhaité vous inviter, d'abord parce que vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire, et puis ensuite parce que nous avons consacré une bonne partie de notre précédente émission à ce basculement important qui venait de s'opérer en Ukraine, avec toute l'actualité électorale et politique qui s'en est en suivi. Alors, bah écoutez, je vous propose dans un premier temps, pour nos auditeurs, vous nous racontiez un petit peu ce que vous avez fait, qui n'est pas commun. C'est vrai que d'habitude, les voyages ou les expéditions humanitaires visent plutôt le Rwanda, le Mali, les zones touchées par le tsunami de saison ou éventuellement la Bosnie ou le Kosovo. Et donc vous êtes allé en Ukraine, donc vous allez nous raconter ça. Et ça, c'est visiblement très intéressant puisque même Xavier Van Lierde a fini par arriver. Donc il a raté notre première demi-heure, mais il n'a pas voulu rater la vôtre. Alors Olivier Champagnat, qu'est-ce que vous avez fait exactement ?
Oui, Philippe Christel, bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Alors, en quelques mots, donc nous sommes deux ce soir d'une équipe de 5 personnes qui revenons d'une mission humanitaire en Ukraine. L'idée a consisté à monter une opération humanitaire à destination, effectivement, comme vous le disiez, plutôt de frères de l'Est de l'Europe, pour une fois, histoire d'avoir une aide humanitaire qui profite à des gens un peu plus proches de nous. Également, pourquoi l'Ukraine ? Parce que c'est un pays qui nous attirait, que nous ne connaissions pas, contrairement aux pays qui lui sont frontaliers. Et donc, nous avons décidé d'emporter là-bas du matériel médical. En fait, nous avons bénéficié du soutien d'un chirurgien franco-ukrainien qui a pu faire écho de besoins urgents et très concrets d'un hôpital de la ville de Lvov, qui est donc une grosse ville, hein, qui compte quasiment 1 million d'habitants, une ville de l'ouest du pays, qui est donc Lvov pour nous, Lviv pour les Ukrainiens. Et
Lemberg pour les Autrichiens, qui ont eu ça dans l'Empire d'Habsbourg pendant un certain temps.
Oui, quand même. Quand vous dites nous, c'est...
Et les Ukrainiens, comment?
Je ne crois pas qu'ils soient allés aussi bas. Si, peut-être.
C'était le 16e siècle. Oui.
C'était l'Ukraine polono-lituanienne.
Et donc, l'hôpital de Lvov, qui avait un certain nombre de besoins très concrets en matériel chirurgical pédiatrique. Donc la première mission a consisté à récolter ce matériel en France. Donc nous remercions à ce titre plusieurs hôpitaux normands de la ville de Caen et de son agglomération où nous avons pu récolter donc ce matériel. Donc sans rentrer dans le détail, il s'agit par exemple de tables d'opération, de couveuses, de respirateurs.
C'est probablement l'héritage viking, les Varegs qui ont fondé Kiev et Caen se retrouvent dans votre voyage, c'est beau.
Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons récolté ce matériel qui a été utilisé jusqu'au printemps dernier par les hôpitaux. Donc autant vous dire que l'hôpital ukrainien a dû faire un bond technologique de plusieurs dizaines d'années. Matériel que nous avons donc emporté par la route. Donc c'était un peu le deuxième défi qu'on a rencontré, qui consistait à louer un camion poids lourd, ce qui n'est déjà pas une chose évidente, qui plus est à le louer sans chauffeur, vu que nous bénéficions de permis et donc nous voulions faire l'opération seul, et qui plus est pour l'Ukraine, qui a été en plus sous le feu des projecteurs médiatiques, ce qui nous a valu un refus de dernière minute de la part du loueur auquel on s'était adressé. Et donc, nous remercions le valeureux loueur de son nom Clovis. Faut quand même souligner la chose, qui a été le seul à nous louer ce camion. Il a d'ailleurs été remercié puisque on est revenu sain et sauf et dans les temps avec le camion
en
entier.
État.
Bon. Tout à fait. Alors, nous avons pu de fait partir il y a quelques semaines, donc au cœur de l'hiver, en empruntant une route qui a donc traversé l'Europe, en passant par l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne, jusqu'à la frontière donc polono-ukrainienne. À vrai dire, route qui s'est passée sans encombre. Poste frontière qui a été un petit peu difficile à passer. On s'attendait à de toute façon un minimum de temps et d'enquête sur ce qu'on pouvait avoir dans notre véhicule. Donc on a mis quelques 6 heures à passer le poste. Donc pour anecdote, en fait, on nous avait conseillé de passer par un petit poste frontière réputé plus facile, donc le poste de Ravaruskaya, qui se trouve au milieu de la steppe, entre la Pologne et l'Ukraine. Et donc, nous l'avons passé en pleine nuit, les postes frontières étant des petits préfabriqués posés dans la plaine, avec pour seule décoration quelques icônes de la Vierge et de Saint-Nicolas, et puis un radiateur électrique, vu que la température, vous l'imaginez, est assez basse. On a passé le poste en 6 heures, alors que, à vrai dire, on avait fait une opération un peu similaire en Russie, où nous avions patienté quelques 14 heures, donc on était plutôt satisfaits. Donc je vais peut-être passer la parole à Franck Duplessis pour vous parler de ce qu'on a vu sur place.
Chose vue en Ukraine.
Absolument.
Séance carte postale.
bonsoir Philippe et Christelle, bonsoir à tous. Donc je vais maintenant vous parler donc de notre petit voyage donc qu'on a fait à Lviv. Lviv où nous avons passé 4 jours. Donc pendant ces 4 jours, nous avons tout d'abord donné aux hôpitaux le matériel que nous avons amené. Olivier l'a précisé, il s'agissait d'une aide importante au vu du matériel apporté, un matériel relativement récent. Et donc sur ces hôpitaux-là, il faut préciser quand même qu'ils nous ont fait un accueil très chaleureux, d'autant plus chaleureux qu'ils n'avaient jamais reçu d'aide de la part notamment de France. Donc il faut souligner que la France a encore des progrès à faire, notamment sur l'Ukraine, mais aussi dans tous les pays européens, comme notamment la Pologne que l'on a pu traverser, et qui a elle aussi de gros problèmes de pauvreté et vraisemblablement de gros problèmes dans ses besoins en matériel médical. Donc sur place, nous avons visité la ville de Lviv. Aux alentours de Lviv, la périphérie, la banlieue est très laide, il faut le dire. C'est
oui,
une périphérie.
J'insiste sur le fait que tout est très bétonné. En fait, on a mis quasiment un jour et demi à pouvoir accéder au centre-ville pour mille et une raisons. Et à vrai dire, on voit un peu tout le poids du communisme et des beautés de son aménagement urbain. Alors même que le centre de la ville est vraiment somptueux. Hein, pour ceux qui connaissent un peu Prague ou Cracovie ou toutes ces belles villes d'Europe centrale, ça s'apparente vraiment à cela, et notamment l'opéra de Lviv, qui peut rivaliser avec celui de Vienne.
Oui, parce que Los Angeles, il n'y a pas que les abords de la ville qui sont moches, le centre aussi, hein, je vous rassure.
Oui, on voit pas tellement le rapport.
Non,
mais
à propos du communisme, de l'urbanisme communiste.
Une petite touche ni russe ni soviétique de la part de Gabriel.
Nous sommes au pays du Trident, on y vient, non?
Alors, quand on est français, qu'on arrive en Ukraine, alors évidemment, vous apportez du matériel, donc la moindre des choses, c'est qu'on vous remercie. Mais est-ce que vous avez l'impression que parce que vous êtes français, vous êtes reçu différemment que si vous aviez été belge, puisqu'on en parlait, italien, espagnol, est-ce que la France représente quelque chose de plus dans un pays qui est indépendant, a été indépendant depuis assez peu dans son histoire, assez peu de temps dans son histoire, et qui donc
formellement indépendant, oui, si on veut. Oui.
Alors qu'est-ce que c'est un Français qui arrive en Ukraine?
À vrai dire, on n'a pas ressenti de francophilie particulière. Déjà, il faut remarquer que on a rencontré pas mal de personnes francophones, ou du moins qui avaient ou qui apprennent aujourd'hui le français à l'école et à l'université, qui ont d'ailleurs un bien meilleur niveau que nous en français, que ce qu'on peut avoir en russe, par exemple.
Oui.
Donc, non, je dis ça parce qu'on
si, était... si c'est un détour pour nous vanter les charmes des étudiantes ukrainiennes, pas besoin de passer par là, hein, on est convaincus. Hein.
Bon, ensuite, pour l'accueil, non, je crois que au risque d'enfoncer des portes ouvertes, ces gens-là sont très généreux, très ouverts, et leur générosité n'a sûrement d'égal que leur pauvreté. On a eu cette chance d'être accueillis dans une famille, donc on a pu connaître le quotidien de d'une classe moyenne ukrainienne, puisque le père de famille était ancien policier municipal à la retraite. Donc on a pu voir ce que c'était que le cadre de vie, que les habitudes alimentaires, donc la viande qui non seulement n'est pas là tous les jours, mais peut-être n'est là qu'une fois par semaine. Un loyer sans doute très cher compte tenu de leur salaire, ce qui les amène comme à mon avis beaucoup de pays de la zone à avoir des maisons très familiales où encore la babouchka, donc la grand-mère est présente et les enfants qui avaient là plus d'une trentaine d'années sont également encore présents. Voilà, donc pour résumer, Franck, coupe-moi si je me coupe, mais je dirais grande générosité.
Oui, absolument, Olivier. C'est effectivement une très grande générosité et c'est vrai que j'ai été particulièrement surpris. Les gens qui nous ont accueillis vivaient dans peut-être 15 mètres carrés maximum. Il y avait 4 enfants, il y avait une mère qui était adorable, qui se sont vraiment pliés en 4 pour nous accueillir. Et c'est vrai qu'en France, peut-être que l'on n'aurait pas forcément fait la même chose.
Oui. Lannelierde voulait intervenir.
Bon, allons-y, oui, oui, allez.
Oui, en fait,
je suis trop aimable.
Oui, non, allez.
Oui, comme je viens d'arriver, c'est gentil
de me laisser la parole. C'est courtois.
Oui, je pense que vous êtes arrivé là-bas juste après ce qu'on a appelé la révolution orange. Or, précisément, l'épicentre de cette révolution orange se situait à Lviv ou Lvov. Avez-vous ressenti quelques jours ou semaines après cette révolution, est-ce qu'on en voit encore les effets palpables, est-ce que les gens parlent, est-ce que vous avez pu sentir les espoirs que ça a pu susciter chez eux, quelles étaient leurs motivations, bref, avez-vous vu quelques conversations politiques avec la famille ukrainienne ou d'autres?
Alors, tout à fait, donc comme vous le soulignez, c'est vrai que Lvov est un peu le fief de l'opposition.
La majorité maintenant.
Tout à fait. Oui, enfin clairement, on a ressenti cette vague orange déjà visuellement parce que dans la rue, les voitures ont des foulards orange sur les antennes, il y a des autocollants un petit peu partout. Pour anecdote, on était donc hébergé dans la chambre à coucher, il y avait des autocollants collés sur les meubles en faveur de Yushchenko.
C'est courageux, oui.
C'est tout à fait courageux. Dans une boîte de nuit où l'équipe de la boîte de nuit avait affiché des photos des manifestations auxquelles ils s'étaient associés. Bon, y a vraiment une sorte de vague populaire. Alors ensuite, malheureusement, l'obstacle linguistique a fait qu'on n'a pas forcément pu rentrer dans le détail. On a essayé d'en savoir un petit peu plus, notamment sur le poids des États-Unis. Est-ce qu'il était ressenti? Comment était-il perçu? Alors par rapport à ça, comme écho, ce qu'on a pu avoir, c'est que déjà le fonds de bienfaisance, qui est en fait une sorte d'intermédiaire qui accueille les dons humanitaires avant le destinataire final, nous a dit que les plus grosses aides venaient clairement des États-Unis, qui littéralement les arrosent. Hein. C'est ce que nous a dit le traducteur sur place.
Juste pour vous couper, on a dit à la dernière émission que depuis 10 ans, l'Ukraine est le 3e pays destinataire de l'aide financière américaine après Israël et l'Égypte. Allez-y, je vous prie.
Voilà, pour anecdote également, dans l'hôpital de Lvov, petit couloir sombre, on voit sur un mur une affiche apparemment fraîchement mise en place, où on pouvait distinguer une infirmière qui était debout face à un drapeau américain. Et donc on en a déduit qu'apparemment c'était une offre de partenariat des États-Unis pour former le corps hospitalier ukrainien. Donc voilà, il y a quand même une présence des Américains. Quand on a posé la question, il y avait peut-être une certaine gêne. En tout cas, ils nous ont dit que pour eux, ça incarnait un réel changement. C'est toujours dur de faire la part des choses entre un mouvement populaire et l'instrumentalisation qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une grande attente du nouveau gouvernement. On est arrivé en fait le jour de l'intronisation de Timoshenko, donc la Premier ministre, qui incarne aussi apparemment un espoir vraiment grand de l'ensemble du peuple.
Oui, c'est l'affaire Timoshenko qui est quand même un coup médiatique extraordinaire, puisque d'abord elle est présentée comme nationaliste ukrainienne alors qu'elle est russe et qu'elle n'a appris l'ukrainien qu'en 99. Et puis surtout, elle a été, lors de l'indépendance ukrainienne, le principal oligarque d'Ukraine contrôlant le secteur du gaz. Il paraît qu'elle est surnommée Madame 12 milliards de dollars. Elle est en tout cas à l'origine du principal scandale financier de l'après-communiste, dont l'un des principaux responsables également est détenu aux États-Unis, qui s'appelle Pavel Lazarenko. Et donc, tout a pensé que Yulia Tymoshenko n'est pas la blanche colombe que l'on dit.
Et qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par Interpol, par ailleurs.
Par ailleurs. Grégoire Gambier, je vois que vous avez ressorti exhumé.
Non, je tremblais à l'évocation d'Interpol, c'est pour ça que j'ai été un peu surpris.
Ressaisissez-vous et mettez-nous un peu l'Ukraine dans la perspective millénaro-historique que vous maniez avec Doigté.
Non, pas du tout. Xavier von Lierne m'a justement avec talent enlevé le mot de la bouche. Moi, je voulais tout simplement poser la question si la révolution orange avait vraiment existé. Mais donc, j'ai eu la réponse. Visiblement, elle a existé, même si c'était dans son fief. Pour revenir au symbole, est-ce que le drapeau national ukrainien, donc bleu et or, donc le bleu des fleuves de l'Ukraine et l'or de ses blés, a été rétabli sur les bâtiments officiels où sommes-nous toujours avec des t-shirts et des casquettes de baseball orange dans les rues de Lvov?
Il y a à la fois les deux. Il y a toujours cette vague vestimentaire, mais notamment devant l'opéra, c'est vrai que le drapeau national flotte.
Grégoire Gambier, qui est quand même la mémoire de l'émission, a sorti de sa bibliothèque un livre qu'il a lu quand il était enfant.
Je l'ai exhumé.
Et qui s'appelle Le fantôme de l'Europe, l'Ukraine, le fantôme de l'Europe, par Jacques-Benoît Méchain, qu'on ne présente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors évidemment, vous l'avez relu pour l'émission, Grégoire Gambier. Rappelez-nous un petit peu pourquoi la fantôme de l'Europe. Est-ce que l'Ukraine aujourd'hui doit rester, a vocation à rester, le fantôme de l'Europe?
Non, le titre, je vous rappelle que donc cet ouvrage qui reste un classique pour comprendre un petit peu ce qu'est l'Ukraine, a été publié juste dans l'immédiate avant-guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, celle qui a mis le feu au champ de blé ukrainien. Donc c'est relativement daté, mais ça reste visionnaire, parce qu'en fait le fantôme de l'Europe, tout simplement parce que ça fait partie de ces nombreuses nations sans État, qui peuple l'Europe ou même l'histoire des différentes civilisations. Et sans État, pourquoi? Parce que il y a toujours eu cette déchirure, mais une déchirure qui doit sans doute traverser chaque Ukrainien entre l'appartenance slave très forte, puisque l'Ukraine est quand même le foyer national de la puissance russe. Et un irrédentisme comme à peu près toutes les nations en marge, les nations périphériques des empires, et aussi une vraie identité malgré tout ukrainienne. Donc c'est un peu cette schizophrénie, mais cette tentation d'être à la fois slave et ukrainien, russe et européen. Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir. Enfin, en tout cas, c'est ce que Benoît Méchain, le titre en tout cas de son ouvrage Le fantôme de l'Europe, le retranscrit bien. Et c'est un peu ce que l'on a vu, puisque à l'occasion de cette révolution orange, bon, parce qu'on est un peu fatigué de ces révolutions de couleurs et de papier. Je ne sais pas si vous avez vu au Liban, maintenant, ils sont tous en train de faire des manifestations avec des...
Quelles couleurs ils ont choisi, là?
Voilà, c'est un peu plus clair, puisqu'ils reprennent les couleurs du drapeau national libanais, rouge et blanc, mais donc ils s'en font des espèces de torchons qui se nouent autour de la taille pour leurs manifestations, alors que le drapeau national en lui-même devrait suffire. Enfin, tout est à la mode, comme ça, de la communication. Planétaire,
hein,
US.
Sur le Liban, parce que vous allez vous fâcher avec Bernard Anthony et c'est vraiment pas malin.
Ce serait audacieux.
Une longue amitié, c'est navrant.
Ce serait navrant, oui. Mais justement, il m'en voudra pas. Au-delà de cette révolution, parce que je sais pas si vous souvenez, à l'occasion donc de la relecture de ce livre, je suis retombé sur des coupures de presse qui dataient de 91, que j'avais glissées dans ces feuilles au milieu des pages, et où déjà donc en 91, au moment de l'éclatement de feu l'URSS, l'Ukraine était donnée comme arrivant enfin à retrouver son indépendance et sa liberté, bien sûr, puisque les deux vont de pair. Et donc ça date de 91, un article du Monde qui s'appelle, enfin qui était titré « Une aspiration constante à la liberté ». Et donc voilà, enfin rien de très neuf sous le soleil, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est qu'est-ce qui change vraiment avec cette pseudo-révolution orange? Moi d'ici de Paris, j'y suis pas allé bien sûr, contrairement à vous, mais je me demande si vraiment elle a une signification autre que l'énorme manipulation médiatique planétaire à laquelle elle a donné lieu. Mais vous pouvez me contredire, mais j'attends que ça.
Non, mais à vrai dire, ce serait difficile de se prononcer là-dessus. On a, j'ai l'impression, eu un regard un petit peu superficiel. Est-ce que c'est la réalisation de plusieurs siècles de volonté d'émancipation face au joug moscovite? Est-ce que c'est une révolution instrumentalisée? C'est vrai que c'est très dur de se prononcer et je pense que c'est pas les quelques jours qu'on a passé là-bas qui pourront forger une réponse. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est ce pays un peu à la croisée des chemins. On sent qu'il y a une volonté d'imposer son identité. La langue en fait partie. L'ukrainien, c'est un combat assez fort. Nous, on l'a rencontré au quotidien puisque c'est toujours un petit peu dur de savoir qui parle russe, qui parle ukrainien. Les langues sont à la fois proches. Hein. L'ukrainien, c'est à peu près 70% de mots similaires aux russes dans leurs racines. Maintenant, pour autant, il y a une sorte de petit combat culturel affleurant. Ensuite, c'est vrai que l'Ukraine est un peu à la croisée des chemins. Il y a pas mal de minorités représentées, à la fois minorité polonaise, minorité roumaine. Il y a les fameux Tatars. Il y a évidemment la grosse minorité russe.
Je crois qu'il est évidemment un peu tôt pour évaluer les fruits potentiels de l'après-révolution, mais on a déjà un premier niveau d'éclairage, c'est ce qui s'est passé en Géorgie, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, qui a subi exactement le même modèle que la révolution ukrainienne, si ce n'est qu'en Ukraine, c'est la couleur orange, et que c'était la révolution des roses en Géorgie. Et donc Saakh Julili, formé dans les universités américaines, a remplacé le vieux lion Chevardnadze, formé à l'école de Moscou, et aujourd'hui, mis à part le fait que la Géorgie est candidate déclarée pour rentrer dans l'OTAN, que la Géorgie est candidate à la candidature pour rentrer dans l'Union européenne, eh bien, les premières analyses sur le niveau de corruption, les fondamentaux économiques et la société géorgienne sont les mêmes après qu'avant. Et même avec même cet épisode cocasse, sauf pour le principal intéressé, que le premier ministre géorgien vient de disparaître tragiquement étouffé par un chauffage au gaz iranien défectueux dans son appartement de fonction. Donc évidemment, ce qui n'a convaincu personne, mais qui montre que les mêmes mœurs caucasiennes ou proche-orientales, puisque la Géorgie est à cheval entre les deux, ont lieu dans ces pays-là. Simplement, la suzeraineté américaine a remplacé la suzeraineté russe, et il y a fort à parier que en Ukraine ce soit ça qu'il se passe sans que les choses changent beaucoup pour les populations. Alors quelques messages d'auditeurs qui nous disent rappelez-nous s'il vous plaît les données essentielles humaines et socio-économiques de l'Ukraine. On ne le fera pas, désolé. On essaye dans un premier temps de mettre en perspective ce qui se passe en Ukraine par rapport au chantier.
Bah, oui, on peut quand même juste le faire puisque effectivement ça a été évoqué. Mais très très rapidement puisque vous savez que Viktor Yushchenko toujours dans cette semaine, il y a quelques jours est venu demander bien sûr la sanctification de l'intégration de son nouveau pays tout neuf, tout beau, tout orange dans l'OTAN et bientôt dans l'UE. Donc il a obtenu une réponse bien évidemment polie, pleine d'espoir, mais pas très constructive, et notamment parce que l'Ukraine, c'est quand même 50 millions d'habitants, si je ne m'abuse, c'est pas neutre comme intégration au sein de l'Union européenne. Et pour revenir sur cette espèce de dichotomie qui traverse l'ensemble de l'identité de le pays ukrainien, c'est le jour et la nuit, même si vous n'avez vu qu'une partie de l'Ukraine, entre l'Ouest agricole et l'Est sidérurgique, même si sidérurgie vieille sidérurgie post-soviétique, mais c'est pas du tout les mêmes économies.
Et pour ce territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, l'Ouest comme l'Est, le point de passage obligé de l'essentiel des gazoducs et oléoducs de la Russie vers l'Occident, vers l'Europe occidentale. On en a déjà parlé de l'impact, donc de contrôler cet emplacement-là.
L'Ukraine en fait, rapidement. Oui, en fait, l'Ukraine est intéressante aussi en ce sens qu'on sent bien une stratégie d'encerclement de la Russie de la part des Occidentaux et en tout cas des Américains. Et l'Ukraine a une position évidemment stratégique puisque elle permet de compléter le dispositif qui permettrait de verrouiller la Russie de la mer Baltique à la mer Noire, et elle sert même de pivot ensuite pour un nouvel axe d'encerclement à travers l'Asie centrale jusqu'à la Chine. Donc elle se retrouve à la croisée de deux axes qui permettent des deux tenailles qui enserrent la Russie. Donc effectivement, certainement, la révolution orange ne changera pas grand-chose pour les populations. On en veut pour preuve, d'ailleurs, que lorsque l'élection s'est déroulée, on nous a expliqué que d'un côté, il s'agissait d'un combat entre des oligarques soutenus par Moscou, et de l'autre, des oies blanches qui souhaitaient rompre avec la corruption. Or, mais comme on l'a dit, la nomination de Mme Timoshenko au poste de Premier ministre a ruiné définitivement cet argument.
Oui, mais elle est photogénique. Voilà. Vous savez bien, nous sommes bien dans la révolution orange.
Certes, plus photogénique que Yushchenko.
Mais ce qui est intéressant, puisqu'on parle des nouvelles élites ukrainiennes, on a été beaucoup attaqué par les auditeurs à la dernière émission qui nous reprochaient de combattre cette nouvelle majorité ukrainienne. Quand on voit les premières décisions prises par Yushchenko dans les nominations à son gouvernement, il y a quand même de quoi être surpris et surtout de comprendre un certain nombre de raccourcis. Ce qui a motivé la lutte de Vladimir Poutine pour restaurer la verticale du pouvoir, c'était de mettre au ban de la société un certain nombre d'oligarques qui s'étaient enrichis illégalement, pillant ainsi les ressources du pays.
Spoliant le peuple.
Notamment, le plus célèbre étant Boris Berezovsky, qui est mania des médias, qui avait réussi à se faire nommer membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, et son acolyte Vladimir Goustinsky, lui aussi mania des médias, et en l'espèce qui était d'ailleurs président du Congrès juif de Russie. Eh bien, Yushchenko a nommé comme ministre de la Communication Yevgeny Chervonenko, qui est un citoyen très honorable, mania des médias, qui détient le passeport de plusieurs nationalités, dont la nationalité israélienne. Il a également nommé comme secrétaire d'État à la Défense et la Sécurité nationale quelqu'un qui n'y connaît rien et qui est issu de cette nomenclature d'oligarque. Donc, je crois que c'est quand même intéressant que les auditeurs qui font de l'anti-russisme primaire se rendent compte de ce qui se met en place, ce qui s'est mis en place à la place de l'influence russe. Après, chacun apprécie et chacun juge. Voilà, je ferme cette parenthèse. Un message d'auditeur qui nous dit que des Français de Verneuil-sur-Seine s'occupent d'enfants en Ukraine et que donc nos invités ne sont pas tout à fait les seuls à aider les Ukrainiens. Mais on s'en félicite. Oui. On a vu d'ailleurs cité dans l'émission de Claude Giraud sur Radio Courtoisie l'initiative qui a été menée pour parrainer les enfants de Beslan, donc ces enfants qui ont eu leurs petits frères, petites sœurs et camarades tués par les terroristes tchétchènes. Donc ça fait effectivement du bien d'entendre sur nos ondes des démarches de parrainage et de soutien qui ne sont pas exclusivement dirigées vers le continent noir, quelles que soient ses souffrances. Autre message d'auditeur, ou plutôt on nous parle voilà, en 2003, c'était le 70e anniversaire du génocide ukrainien, 7 millions de morts, personne n'en a parlé. Écoutez, je crois que je sais pas si ça fait vraiment 7 millions, mais tout le génocide et les chiffres, c'est toujours très compliqué ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres, alors une question, pourquoi les Ukrainiens ont choisi la couleur orange? Je pense que c'est lié à l'abonnement gratuit France Télécom qui était promis à tout nouveau révolutionnaire,
à tout électeur de Yushchenko.
Tout électeur. Non, je crois
c'est parce que c'est la couleur préférée de George Soros.
Voilà, exactement. Je crois que surtout les Ukrainiens n'ont rien choisi. On leur a dit, tends ta main, je te donnerai un petit drapeau à agiter. Il se trouve qu'il était orange.
Ouais, je pense qu'une équipe marketing américaine avait mis ça au point.
C'est une couleur chaleureuse, qui fait pas du tout martial,
qui est pas agressive comme le rouge.
Qui rassure et qui est à la fois rassurante et donne envie de faire la fête. Voilà, c'était parfait. Et puis effectivement, il y avait des centaines de milliers de t-shirts déjà sortis des usines au Mexique. Donc voilà.
Alors, il est 20h29, on va arriver au terme de cette demi-heure. Alors, Olivier Champagnac et Franck Duplessis, en une phrase chacun, une bonne raison d'aller en Ukraine, pour tous ceux qui veulent y aller.
Un peu plus à l'est peut-être, pour voir, ou au sud, dans des vraies régions.
Allez, donnez-nous une bonne raison pour nous faire aller en Ukraine.
Eh bien, tout d'abord, je dirais que les Ukrainiennes sont en soi une bonne raison pour aller en Ukraine, effectivement.
Ah, très bien.
Et puis la deuxième raison, c'est que l'Ukraine, de par le fait que C'est vraiment un pays inconnu pour nous, un pays que beaucoup de Français et beaucoup de jeunes ne peuvent pas situer sur la carte. C'est un pays qui mérite, comme toute l'Europe, de se visiter, qui a une géographie très variée et qui vraiment recèle de véritables merveilles. Donc allons-y, que ce soit pour du tourisme, du culturel ou de l'humanitaire, c'est un pays où il faut aller.
Olivier Champagnac.
Oui, moi je dirais que ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est à la fois le côté européen de l'Ukraine qui fait que on se sent bien, tout simplement, on se sent un peu chez soi parce que beaucoup de caractères de la culture sont proches des nôtres, et pour autant eh bien il y a tout le mystère de l'Est, toute cette porte ouverte vers les steppes, et je dois dire que ça fait un petit cocktail des plus agréables.
Merci à vous deux et bravo encore pour ce que vous avez fait. Vous restez avec nous si vous le souhaitez pour la troisième demi-heure, donc que nous attaquons sur l'actualité culturelle européenne. Patrick PL pour cette demi-heure culturelle sur ces chroniques de la vieille Europe, Radio Courtoisie.
Je vais peut-être en choquer plus d'un dans les auditeurs de Radio Courtoisie, mais je vais pas vraiment parler de culture. Premièrement, j'ai pas été au cinéma, j'ai pas lu le livre, j'ai pas été au théâtre. Je vais vous parler de jeux vidéo.
Il y a un blanc,
jeux vidéo. Pourquoi je vais vous parler du jeu vidéo? Parce que contrairement à ce que croient un grand nombre de personnes, le jeu vidéo n'est pas simplement une occupation pour adolescents attardés, mais c'est une véritable industrie. Je vais vous donner quelques chiffres. Le chiffre d'affaires en 2000 représentait dans le monde 6 milliards de dollars. Il représente pour l'année 2004 plus de 20 milliards de dollars, dont à peu près 1 milliard pour la France. Sur 4 ans, c'est quand même quelque chose qui commence à compter. Bon, certains vont me dire, ok, le jeu vidéo fait beaucoup d'argent, et alors, où est la culture dans cette industrie? Elle est pourtant omniprésente, les Américains et les Japonais l'ont très bien perçue. Prenons le Japon. Grâce aux jeux vidéo, la culture japonaise a explosé dans le monde entier. Par exemple, Hironobu Sakaguchi, considéré comme un dieu vivant au Japon, est le créateur d'une série à succès qui s'appelle Final Fantasy. Des millions de jeux ont été vendus dans le monde. Il a collaboré avec les plus grands illustrateurs du Japon. La musique symphonique composée spécialement pour le jeu est devenue un grand succès de disques. On joue sa musique dans les plus grandes salles du Japon au même titre qu'un Mozart ou un Beethoven. Il a fait appel aux réalisateurs, aux scénaristes les plus talentueux, et pourtant les jeux japonais, et c'est là que c'est important, les jeux japonais reprennent dans un univers futuriste les valeurs ancestrales de leur culture, le sens du devoir et du sacrifice. Il n'y a pas de rupture de génération, ils sont fiers d'être japonais et le disent au monde entier. Ce qui est marrant à propos du Japon, c'est que peu près de 2 ou 3 semaines, l'auteur Miyazaki vient de sortir un nouveau dessin animé qui a été encensé par toute la presse de gauche. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait la couverture de Télérama, il y a eu un dossier dans Libération, dans Le Monde, tout le monde l'a trouvé extraordinaire.
Le château ambulant.
Et une exposition à Paris au musée de la Monnaie, c'est incroyable, tout le monde adore Miyazaki. Alors que Miyazaki, s'il était français, il serait considéré comme un réactionnaire, tendance fasciste, pour ses prises de position dans ses dessins animés. Donc je ne peux que m'en réjouir que Miyazaki, qui est un grand cinéaste, je m'aperçois que simplement quand ça vient du Japon, on a l'impression que c'est une culture extraordinaire, mais quand vous êtes français, vaut mieux faire un dessin animé sur la misère des banlieues ou reprendre les vieux contes africains pour montrer la méchanceté de l'homme blanc. Voilà, si vraiment j'aimerais bien que... Il faudra faire un spécial Miyazaki pour bien analyser exactement son message.
Écoutez, vous nous le faites venir, et puis...
Pourquoi pas.
Et puis voilà.
On apprendra le japonais entre-temps. Mais revenons aux jeux vidéo. En France, la création se portait bien, et l'avantage était que l'élite de gauche ne s'en occupait pas. Donc aucune censure sur les scénarios, sur les histoires. Les anglo-saxons l'appelaient la French Touche. Grâce aux grandes écoles d'art comme les Gobelins, les Arts Déco, Pellingen, les plus talentueux jeunes artistes trouvaient du travail dans les sociétés de jeux vidéo. Cette génération, influencée par les jeux de rôle et leur passion pour les grandes sagas européennes ou les livres de Tolkien, ont développé une culture alternative, ou plutôt une nouvelle culture. Et ils préfèrent le Seigneur des Anneaux à l'amande Duras, Excalibur de Borman au Train d'Enfer de Roger Hanin. Bon, là, c'est un peu facile. Oui. Cette fameuse génération qui avait 20 ans dans les années 80 ne se sent pas concernée par les luttes gauchistes des années 70 et ne se reconnaît pas dans la génération SOS racisme. Leurs passions vont vers l'héroïque fantasy, la musique esthétique anglaise appelée New Wave. Ils aiment la BD française d'un Moebius. Ils feront partie de la génération de l'image et ont une passion pour l'ordinateur. À l'époque, le court-métrage Le Bunker d'un certain Jeunet, celui qui a fait Amélie Poulain, deviendra culte par sa froideur et son esthétisme. Ils ne sont ni de gauche ni de droite, mais européens par leur culture. Et en Europe, l'une des plus belles réussites dans le jeu vidéo viendra de Bretagne. C'est en 84 à Carantoir, au fin fond du hangar à pommes familiales, que les cinq frères Guillemot, Claude, Michel, Gérard, Yves et Christian, fondent Guillemot Informatique, un magasin d'ordinateurs qu'ils installent dans leur patelin breton. Avec l'arrivée des Commodore, qui étaient les premiers ordinateurs à jeu, ils sentent le bon coup et commencent à distribuer par correspondance des jeux importés. Ils atteignent en 2 ans une taille impressionnante et un chiffre d'affaires du même calibre, 40 millions de francs. 20 ans plus tard, la société des frères Guillemot, Ubisoft, devient le 3e éditeur européen. Et sa grande force, c'est ses studios de création. 2e force de production interne de jeux vidéo dans le monde. Mais le compte de fées s'arrête. Il y a quelques mois, le numéro 1 du secteur américain, Electronic Arts, prend 20% d'actions de la société familiale. Grâce à ses énormes bénéfices, il pourrait prendre le contrôle à 100% du capital. Même si les frères Guillemot se battent pour garder le contrôle, on ne peut pas dire qu'en France, les investisseurs se bousculent pour les aider. Le baron Seyer et les patrons français ne se sentent pas concernés pour un loisir d'adolescent attardé. Antoine Seyer préfère investir dans l'édition. Le Québec, par exemple, a fait une demande de partenariat avec Ubisoft pour la création d'un pôle universitaire sur les métiers des jeux vidéo. Et la France, rien du tout. Depuis des mois, on nous bassine avec l'intelligence économique. On en parle beaucoup. Aux États-Unis, on en fait. Ubisoft est un leader dans le jeu de guerre, les simulations. L'armée américaine a signé un contrat au mois d'avril avec Ubisoft pour une collaboration sur des simulateurs pour son armée. Quelques mois après, Electronic Arts rentre en force dans le capital d'Ubisoft. Serait-ce un hasard? Le monde économique ne se fait aucune illusion. Ubisoft risque de devenir américain. Ah oui, mais que fait l'armée française? Eh ben, elle bidouille, l'armée française. Il y a 4 ans, un caporal-chef, Urbinati, alias Guido, pour ses copains, passait l'essentiel de son temps libre à bidouiller un jeu édité chez Ubisoft, Ghost Recon, au programme guérilla urbaine et travail d'équipe. Comme tous les joueurs assidus, notre caporal-chef s'amusait à faire évoluer ce jeu en créant des théâtres d'opérations en 3D, en adaptant les uniformes et les armes de l'infanterie française. J'ai fait une démonstration au général Poulet, ça s'invente pas, ça, qui dirigeait l'école d'infanterie de l'époque. À cette époque, il m'a dit « c'est ce qu'il nous faut ». 2 ans plus tard, Guido a passé un contrat avec Ubisoft en tant que testeur. Merci au caporal-chef, car ce n'est pas l'État, ni même l'armée, qui a passé le moindre contrat.
Mais je crois que depuis Cameroun, c'est quand même les caporaux-chefs qui sauvent la mise.
Hein. Il est fort à parier que d'ici quelques années, le jeu vidéo sera 100% américain et japonais. Et nous, on jouera avec quoi? Bah oui. Connaissez-vous le jeu le plus vendu en France en ce moment? Alors, je me suis renseigné, c'est un jeu américain qui s'appelle GTA San Andreas.
Pardon?
Eh oui,
moi je crois que c'est la belote contrée, mais...
Et je vais vous expliquer ce que c'est comme jeu. Vous jouez un black faisant partie d'un gang à Los Angeles sur fond de musique rap. Vous tuez, volez, pillez et vous faites fortune dans la drogue. Voilà un extrait. Alors je me suis renseigné, j'ai pris un magazine pour les jeunes qui joue au jeu. Vous savez, c'est des magazines de solutions pour arriver à faire le jeu plus facilement.
Ça fait un peu anti-jeune quand même ce que vous faites là.
Non, mais
ça dépositionne l'émission.
Écoutez, parce que les gens de Radio Courtoisie ne connaissent pas le jeu vidéo, et je les comprends bien. Écoutez ce qu'on leur conseille. L'argent dans ce jeu est important. L'argent est un élément très important dans le jeu. Vous n'en aurez jamais assez. Alors n'hésitez pas, cambriolez des villas ou des boutiques. Vous pouvez aussi jouer au casino. Mais attention, l'organisation avant tout. Il vous faut bien préparer votre coup, anticiper les déplacements des flics ou des propriétaires de la demeure que vous vous apprêtez à visiter. Voilà ce qu'on met dans les magazines de jeux vidéo. Alors le jeu vidéo français est en train de mourir et bientôt on ne jouera qu'à des jeux de gang de Los Angeles. Donc je pense qu'on peut ne pas s'intéresser aux jeux vidéo, mais l'ignorer, on ne peut pas.
Ouais. Est-ce que vous croyez vraiment que le jeu vidéo français est en train de mourir? J'avais cru comprendre qu'il y avait des regroupements quand même justement des principales sociétés basées en Île-de-France, à Paris, en Île-de-France.
D'un côté, vous avez les trois grands pôles Ubisoft qui risquent bien sûr de se faire acheter par les Américains. Vous avez de l'autre Universal, mais comme du côté du groupe Universal, on a une tendance à dégager tous les bijoux de famille en ce moment. Je ne pense pas qu'ils vont rester. Et vous avez Infogrames qui avait racheté un Américain qui s'appelait Atari et qui est à Lyon et qui est dans un déficit énorme, et on risque bien de le voir un jour couler soit du côté anglais, soit du côté américain. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça serait bien que l'État, que les patrons, le MEDEF s'intéressent un peu à cette industrie qui est une industrie d'avenir.
Alors, puisqu'on est dans les mauvaises nouvelles, moi, j'aimerais quand même lancer une séquence émotion autour de ce micro, puisque comme Patrick a dépositionné un peu l'émission en la sortant de son côté jeune, je voudrais faire encore pire et je voudrais m'émouvoir, mais sincèrement, de la disparition récente de Pierre Bachelet, qui était quand même un des plus grands chanteurs. Ah oui. Et qui, avec Jean-Pax Méfray, était peut-être un de ces deux chanteurs qui était porteur d'une vraie esthétique populaire dans les années 70.
Oui, mais Jean-Pax Méfray n'est pas mort.
Ah bon?
Non, je crois pas. Non. Il est...
Alors, un message d'auditeur pour répondre à la question sur la couleur orange. Donc, un auditeur érudit nous enseigne que la couleur orange est issue d'une vieille coutume ukrainienne. Lorsqu'une jeune fille était courtisée, elle pendait à sa fenêtre un tissu brodé en cas d'agrément et une courge orange en cas de refus du prétendant. Et donc l'orange devient par destination la couleur du rejet. Voilà.
On est vraiment des mauvaises langues.
C'était une vraie tradition ukrainienne.
On est vraiment
on fait du mauvais esprit. Hein.
Xavier Van Lierdvoet, qui est quand même le type sérieux de l'équipe, est-ce que vous avez un ou deux bouquins dont vous voudriez nous vanter les mérites?
Oui, mais écoutez, en fait, j'en ai deux, ils sont liés. J'ai voulu me faire pardonner mon retard, donc j'ai pris deux livres sur la Russie pour vous faire plaisir, Philippe Christel.
Que vous avez lu dans le métro, en arrivant.
Un qui m'a plu et un qui m'a fortement déplu. Je commence par le plus désagréable. Il s'appelle, et c'est déjà tout un programme, La Russie de Poutine. C'est bien sûr une œuvre collective, puisque c'est le numéro 112 de la revue Pouvoir, publié dans les détestables éditions du Seuil. Il ne s'agit pas d'une étude universitaire comme ça peut arriver dans cette revue, dont on confie à chaque fois la direction à tel ou tel spécialiste en fonction des sujets. Cette fois-ci, la revue est émise sous la coupe d'une certaine Marie Mandras, lesquelles nous expliquent, ainsi que la plupart des autres collaborateurs, que décidément en Russie tout va mal. C'est une économie de, c'est-à-dire au moment même où la Russie paye l'ensemble de ses dettes à quasiment tous ses créanciers, et par avance, on nous explique qu'à ce rythme-là, ils vont bientôt rembourser les emprunts russes. Hein. On nous explique que l'économie russe est au bord de la ruine, que de toute façon c'est une économie rentière qui est proche de celle de l'Arabie Saoudite, qui n'a aucun investissement, que la corruption est absolument endémique.
Qu'il n'y a pas de démocratie, sûrement.
Qu'il n'y a absolument aucune démocratie, un recul des libertés fondamentales. Oui. Bref, que la Russie est l'homme malade du village global. Tout cela est à charge, à l'exception peut-être de la contribution de Cathy Rousselet, qui est beaucoup plus équilibrée, je me devais quand même de le préciser, mais sinon, cet ouvrage, à l'exception donc de la contribution de Cathy Rousselet, est à oublier. En revanche, c'est sur un sujet beaucoup plus précis, l'ouvrage s'intitule La Russie en guerre, il est dû à un jeune analyste de la DRM, qui est un organisme gouvernemental français, est consacré bien sûr aux mythes et réalités tchétchènes, il est dû à Arnaud Kalika, c'est un ouvrage remarquable de décryptage des véritables enjeux et origines du conflit tchétchène, dont il est d'ailleurs question aussi dans la Russie de Poutine pour nous expliquer que c'est évidemment un quasi-génocide et une guerre coloniale doublée d'un choc des civilisations mal digéré. Le deuxième ouvrage, La Russie en guerre, mythes et réalités tchétchènes, du Arnaud Kalika aux éditions Ellipse, dans l'excellente collection Monde Réel, qui est une nouvelle collection qui, comme son nom l'indique, est destinée à quitter les lubies idéologiques pour retrouver le sens de la réalité, est à conseiller. Je rappelle donc
non pas ses coordonnées, mais ses références. La Russie en guerre, Mitterralité tchétchène, d'Arnaud Kalika aux éditions Ellipse.
Merci Patrick PL.
Oui, alors j'ai un peu lu quand même, je vous ai menti tout à l'heure, il y a un excellent petit livre chez Pardès sur Lang, ce grand réalisateur Fritz Lang, et c'est fait par Michel Marmin. Alors ça a l'avantage, ça fait une centaine de pages.
Grand réalisateur lui aussi.
Un grand spécialiste.
Scénariste, un grand spécialiste du cinéma.
Il écrit encore dans certaines revues, non?
Je crois qu'il écrit encore dans la revue Élément, si je me souviens.
C'est ça.
Même, je pense qu'il la dirige. Il la dirige. En tout cas, bon, les gens qui connaissent bien le cinéma connaissent Michel Marmin. Il a été effectivement chroniqueur à Valeurs Actuelles et à Spectacle du Monde pendant des années. Mmh. Et là, il nous fait un petit livre sur Fritz Lang. C'est peut-être l'une des meilleures introductions. Et je pense sincèrement que c'est peut-être le meilleur livre qu'on ait écrit sur le sujet. C'est toujours très pertinent, c'est pas encyclopédique, comme souvent ce genre de livre, et je pense que même les gens qui ne sont pas forcément passionnés par le cinéma doivent le lire parce que c'est excellemment bien écrit. Une deuxième petite brève assez marrante, ça, la télé. Moi j'aime bien de temps en temps regarder la télé. Alors je sais pas si vous avez regardé la télé au mois de février, mais il y a eu, vous savez qu'en ces temps d'anniversaire, tout le monde est en train de commémorer quelque chose, et puis la télé nous a présenté
un film pornographique.
Bah c'est, non, je dirais pas jusqu'à là, un téléfilm sur la déportation des homosexuels.
Ah non, rien à voir.
Rien à voir. Donc, je l'ai regardé, et effectivement, c'est un film qui se veut assez, ne connaissant pas du tout le sujet, c'est vrai que c'est un peu un sujet que,
dont on parle assez peu.
On parle très peu. Oh, l'histoire est toute bête, c'est Paris, 1942, Sarah, une jeune réfugiée juive dont la famille a été décimée par les Allemands, est amoureuse de Jean. Mais Jean, lui, aime Philippe. Malgré leurs différences, tous trois seront unis dans la souffrance, ils seront déportés, Sarah parce que juive et Jean et Philippe parce qu'ils sont homosexuels. Pour elle, l'étoile jaune, pour eux, le triangle rose. Alors, c'est un téléfilm qui a eu un sacré budget, ils ont reconstruit tout un camp en Bulgarie, et moi je pensais sincèrement que ça venait de faits réels. Et puis alors là, la polémique est arrivée, tous les historiens sont catégoriques sur ce point, Vichy n'a pas déporté d'homosexuels. Aucun homosexuel n'a été déporté de France. En Allemagne, oui, il y en a eu en Alsace.
S'y est opposé fermement.
Ah. Et donc ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que on s'est un peu renseigné quand même sur comment France 2 a dû s'entourer d'historiens sérieux. Et en fin de compte, le conseiller historique pour ce téléfilm a été recruté. Il s'appelle Jean Lebitou. C'est un personnage pour le moins controverse. Il est fondateur à la fin des années 70 du magazine homosexuel Guépier.
Quand on s'appelle Lebitou,
Oui, c'est un peu facile.
Oui,
il fallait la faire. Ça met un peu de joyeuseté dans l'émission.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a à chaque fois cette polémique. Tous les historiens, alors là, on ne parle même pas, je veux dire, de négationnisme. On parle de vraiment où il n'y a pas un seul historien sérieux. J'ai quand même cherché qui parle de cette déportation. Aucun des déportés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment des anniversaires des déportés juifs, il y a souvent des manifestations de jeunes homosexuels qui, eux, sont persuadé après la propagande qui a été faite dans le milieu homo que des déportés ont été homosexuels sous le gouvernement de Vichy. Alors c'est intéressant parce qu'on sait très bien la démarche de la communauté gay, c'est-à-dire que c'est comme l'histoire de Dieudonné, on prend exactement le même parcours que la communauté juive, pensant qu'on va pouvoir être un lobby important. Ce qui est un peu navrant, c'est qu'une chaîne publique comme France 2 se permette à une heure de grande écoute, parce que c'est un téléfilm quand même qui a coûté réellement cher, avec des grands acteurs, les acteurs ne sont pas en cause dans cette histoire-là, et qu'on est arrivé à faire une histoire qui est une fiction totale. Et navrant.
C'était peut-être une fiction totale. Bon.
À la façon dont ça a été présenté, vous savez très bien qu'on ne fait pas de fiction sur la Seconde Guerre mondiale, mon cher Grégoire. En tout cas, pas à la télé.
Vous n'y voyez pas malice, mais comme tout le monde cite ses ouvrages, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Mais donc, je n'ai pas bien cité les coordonnées, enfin les références, pardon, du livre de Benoît Méchain, Ukraine, le fantôme de l'Europe, donc qui a été réédité aux éditions du Rocher et Valmonde en 1991 pour tous ceux qui s'intéressent donc à ce pays et au devenir de cette région d'Europe.
Alors, on a dans les critiques qui sont régulièrement faites contre la Russie, il y a le fait que voilà, ça y est, on revient, c'est le nouvel impérialisme communiste et stalinien qui revient en Russie. Poutine s'appuie sur
l'histoire communiste. Bah, peut-être pour détromper ou pour au moins équilibrer, apprenons aux auditeurs de Radio Courtoisie que c'est une info qui sort de chez Faits et Documents, qu'une statue de plus de 5 mètres représentant l'amiral Koltchak, héros de la guerre russo-japonaise mais surtout grand chef des forces armées blanches, a été inaugurée le jour du 130e anniversaire de sa naissance à Irkoutsk, Sibérie, donc sur les bords du lac Baïkal. Elle a été érigée dans l'enceinte de la cathédrale et non loin de l'endroit où il avait été fusillé après avoir été trahi par la Légion tchèque et avec la carte blanche du général français envoyé dans le secteur pour initialement le protéger. Donc voilà, l'amiral Koltchak sera honoré, ce qui permet de dire que au moins la Russie est capable de faire face à l'intégralité de son passé tumultueux.
Oui, bon, on verra bientôt une grande statue en l'honneur de Mihailovitch à Belgrade, pays bien connu des Serbes bolcheviques, tensé chez certains de nos camarades.
Alors, une page de sport, Grégoire Gambier?
Oui, alors, bon, ça, c'est méritoire. Il y a eu un match de rugby récemment. Où les Gallois donc ont gagné contre l'Angleterre, ce qui est suffisamment rare pour qu'un supporter gallois donc pour fêter cette victoire suite à un pari évidemment stupide se coupe les testicules en sortant du pub. Donc c'est à la fois émouvant de rectitude parce que quand même bah il fait un pari, il le perd, il va jusqu'au bout et puis bon il faut quand même que l'enjeu soit important pour se risquer comme cela. Donc ça n'arrive que de l'autre côté de la Manche, mais c'est pour ça aussi qu'on les aime bien.
Voilà, donc un bel exemple de vitalité, sachant que ces jours ne sont heureusement pas en danger. Quelques
brèves rapides. Il y a une pièce de théâtre à voir en ce moment à Paris, c'est Amadeus. Tout le monde connaît le film, mais la pièce de théâtre est cette fois-ci jouée avec Jean Piat et un jeune acteur qui commence à avoir énormément de succès, ce qui est dommage, et qui joue que dans des films un peu débiles. Il s'appelle Laurent Deutsch, qui effectivement est extraordinaire dans cette pièce. Il joue le rôle de Mozart, et c'est à voir cette pièce magnifique de Peter Schaeffer. Et une deuxième brève, un livre extraordinaire à acheter, c'est le livre des dieux celtes et grecs, c'est le tome 2 de Bernard Sergent, c'est l'une des études les plus sérieuses qu'on ait fait depuis deux Mésiles. C'est une étude entre les dieux celtes et grecs. Le premier volume avait été sur les héros, et cette fois-ci c'est sur les dieux, c'est très bien.
Oui, Bernard Sergent est de toute façon...
C'est aux éditions Payot.
Et du Mésilien, il se considère.
Du Mésilien. Et pour une fois, ma brève vient du Monde, et le Monde n'a pas dit le moindre mal de
son travail.
Bernard Sergent. C'est peut-être parce qu'ils ont changé de rédacteur en chef.
Ou ils ont vu qu'il y avait un lycée Georges Dumézil à Vernon, donc ils ont dû se dire que...
Peut-être ça doit être ça,
je pense. Pas si diabolique que cela.
Xavier Van Lierde. Une brève.
Oui, pour terminer, je voudrais recommander un article écrit par Julien Damon. Julien Damon, c'était le responsable du département recherche et prospective de la Caisse nationale des allocations familiales. C'est un article écrit dans la revue Futurible, qui est spécialisée elle aussi dans la prospective. Alors Julien Damon pose la question suivante. Verra-t-on demain des parents traînés devant les tribunaux par leurs bambins pour leur avoir administré une bonne fessée? Eh bien, la réponse risque fort d'être oui. Julien Damon fait en effet une étude sur l'ensemble de l'Europe et il s'est aperçu que dans le sillage de la Suède, qui a interdit la fessée dans le cadre familial dès 1979, eh bien désormais pas moins de 12 pays du Conseil de l'Europe ont modifié leur législation dans ce sens. Alors bien sûr, tous ne prévoient pas de déférer les parents au tribunal pour avoir, mettons, administré une fessée après avoir demandé à leurs parents de sortir à leurs enfants de sortir une fois, deux fois, trois fois du bain. Mais les sanctions sont parfois quand même assez sévères, en tout cas beaucoup plus rigoureuses qu'une bonne fessée, puisqu'en Finlande, par exemple, on prévoit jusqu'à 10 ans de prison ferme. Alors peut-être pensez-vous que cet adoucissement des mœurs vikings est impensable sous nos latitudes latines? Eh bien non, écoutez plutôt Claire Brisset. Claire Brisset, c'est la défenseur des enfants, c'est une fonction officielle, qui déclarait en présentant son rapport 2003 président de la République, et je conclurai par cette citation qui fait frémir, le cap est clair et il est tracé, les châtiments corporels, tout comme les violences verbales, et oui, finit aussi la bonne vieille soufflante, doivent être bannis de la famille, comme ils doivent l'être, de l'école ou de toute autre institution, et de conclure sur une envolée martiale, l'obligation morale est faite à la société de tendre ici vers la tolérance zéro.
Merci Xavier Van Lierde pour cette conclusion virile, merci à nos deux invités, Olivier Champagnac et Franck Duplessis, de retour d'Ukraine, merci Grégoire Grégoire Gambier et vous, Patrick PL. Nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles chroniques de la vieille Europe. Bonne soirée à tous.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com.
Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 23 février 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 24 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.